Bonsoir. On va donc commencer notre conférence de ce soir, la décision médicale entre éthique et rationalité économique. Donc, on va organiser ce soir un peu les choses sous forme d'une semi-table ronde avec un exposé introductif du professeur René Robert, qui est professeur de réanimation médicale au CHU de Poitiers. Ensuite, monsieur Alain Debetz, qui est directeur de l'hôpital de Saint-Onge, interviendra. Et puis Gilles Kerr, qui est un habitué des soirées d'Asfès, puisque tu étais là la dernière fois, va nous parler de l'éthique en économie. Et puis bien évidemment, le but de nos soirées, c'est aussi d'avoir un débat le plus large possible. Donc on consacrera à peu près trois quarts d'heure à des questions-réponses entre les gens qui sont intervenants et la salle. Donc je vais passer la parole tout de suite à M. René Robert, étant entendu que notre soirée doit s'interrompre à 22h30, hein, puisque c'est l'engagement que nous avons pris auprès de l'espace Pades France.
Merci beaucoup. Je dois dire qu'en plus de réanimateur, j'ai une autre casquette, et c'est sans doute avec cette deuxième casquette qu'on m'a invité à parler devant vous et à participer à cette table ronde. C'est que je suis impliqué dans l'espace régional d'éthique, donc régional, c'est Poitou-Charentes, c'est pas que le CHU, et donc je suis censé avoir une certaine sensibilité pour les problèmes éthiques qui dépassent un peu le cadre de la réanimation. Alors le sujet n'est pas très facile, enfin, même si je dirais quelques mots tout à l'heure de ce que c'est également exactement que la réanimation, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. D'emblée, on sait que c'est quelque chose qui coûte particulièrement cher, et donc c'est très adapté à notre débat d'aujourd'hui. Et donc, dans cet exposé introductif, je vais d'abord échanger avec vous un certain nombre de questions que je me pose moi-même en tant que médecin qui travaillant dans un hôpital public et confronté, comme beaucoup, à ces problèmes de budget, de restrictions. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que nous, les médecins, on est sensibles à cette tension économique dans nos choix médicaux ? Donc, simplement, une diapo. Vous savez que l'hôpital, ça a beaucoup changé à travers le temps. Au départ, c'était l'assistance aux indigents. Et puis, avec le progrès médical, le médecin est venu réellement soignant. Et puis, soignant technicien. Et puis, la technique étant de plus en plus sophistiquée, même si à l'époque, il n'y avait pas de problème de financement. Donc, c'était un médecin soignant et technicien. Et puis, la sophistication des équipements, l'augmentation des coûts, les logiques économiques... font que maintenant, le médecin est obligé de faire des choix médicaux ou potentiellement confronté à des choix médicaux à cause de l'évolution de notre société. Donc, si je réfléchis un peu à médecine, société, contexte actuel, ben, je dirais que la société maintenant nous contraint à organiser l'acceptabilité des contraintes plus que l'acceptabilité des coûts. Le patient est devenu, par certains aspects, heureusement pas tous, un consommateur client dans certaines structures. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre là-dessus. Que le contrat moral prédominant de la relation médecin-malade, qui il y a quelques années était basé sur la bienfaisance, et je dirais même la bienfaisance paternaliste, a laissé la place à l'autonomie, et je pourrais même dire des fois l'autonomie forcée ou obligatoire, on pourra discuter de ça aussi, et que l'obsession de la société devient la sécurité, et sans doute on débattra aussi de ce fameux principe de précaution. Alors, on a beaucoup dit que les médecins étaient responsables. Alors, sommes-nous coupables de ne pas maîtriser les dépenses de santé, d'une mauvaise organisation qui nuit à l'efficience et éventuellement d'acharnement thérapeutique coûteux? Alors, juste en quelques secondes, finalement, pour être dans la thématique, hein, si je vous posais deux questions et quelques secondes pour trouver des réponses, mais je ne vous interrogerai pas pour savoir quelles sont les réponses auxquelles vous pensez. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer, finalement, pour être dans le débat, des situations où la logique économique, financière, s'oppose à des principes éthiques de décision médicale ? Et puis, inversement, je pourrais aussi vous poser la question, est-ce qu'il y a d'autres situations où, justement, les logiques économique et éthique s'accordent. Simplement 10 secondes pour essayer de trouver des exemples qui iraient avec ça. Alors, peut-être quelques portes ouvertes, je dirais, qui sont évidentes quand on met en relation l'éthique et puis une logique économique. Bon, c'est sûrement pas éthique de ne soigner quelqu'un qu'en fonction de ses ressources. Il est sans doute pas éthique de gaspiller un traitement ou un examen complémentaire inutile, n'est pas éthique. Ce qui est gaspillé par les uns est retiré à d'autres, surtout par les temps qui courent, et il n'est sans doute pas acceptable d'ignorer le coût de certains traitements quand on est médecin. Alors, quelque chose qui nous a beaucoup marqué, nous les médecins, et en particulier dans le service public, peut-être aussi dans les structures privées de façon un peu différente, mais sans doute assez parallèle, c'est que le budget des hôpitaux, ça a changé avec le temps. Peut-être sans doute les économistes ou directeurs d'hôpital reviendront un peu là-dessus, parce que c'est, je dirais pas le cœur de leur métier, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus spécialisés que moi dans ce domaine. Donc moi, je ne donne que ma vision médicale de cette affaire. Donc il y a un certain nombre d'années, et je ne remonte pas trop loin, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire des budgets des hôpitaux, mais on avait un budget global pour faire fonctionner les hôpitaux. Et l'exercice, c'était surtout d'essayer de dépasser le budget global pour que l'année suivante, on puisse ne pas être amputé de ce budget et d'avoir tout. Et puis, depuis quelques années, on est soumis à ce qu'on appelle le budget et fonction de l'activité. Et ça s'appelle la tarification à l'acte ou T2A. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Mais sans doute, on reviendra là aussi. Puis je vais peut-être dire des bêtises qui seront corrigées par les autres personnes qui sont à la table. Donc, en gros, c'est la Sécu qui paye. Et la Sécu, elle paye en fonction des diagnostics des malades qui sont hospitalisés. Et donc, il y a une certaine façon de regrouper les diagnostics et de mettre en parallèle le diagnostic et le coût que cela représente et le coût que va payer la Sécurité sociale à l'hôpital. Et puis, des fois, il y a d'autres éléments qui vont majorer le coût avec des actes qui sont particulièrement coûteux ou bien des unités spécialisées. Quand on va en réanimation, il y a un forfait supplémentaire qui traduit le coût de la réanimation. Et donc ça fait le budget les budgets des hôpitaux. Alors donc, finalement, si pour être payé, ils font consommer... La première crainte, et là on est au cœur du débat, c'est est-ce que cette façon de faire n'est pas une incitation à inverser notre mode de pensée, où dans le système, finalement, il ne s'agirait plus de limiter les dépenses au nécessaire, mais plutôt d'augmenter les ressources pour accroître l'activité et pour toujours courir derrière le budget qu'il faut chercher à équilibrer. Et donc, pour y arriver, trouver des systèmes qui nous permettent de réduire la durée de séjour, d'augmenter le turnover, de favoriser des secteurs rentables, bref... d'augmenter la productivité des médecins au niveau d'une structure hospitalière. Alors l'argument du coût dans la décision médicale devrait être considéré un peu ou est considéré comme un tabou dans notre société. On n'a pas beaucoup parlé argent et puis surtout quelle horreur pour un médecin de penser que derrière sa stratégie de décision médicale il puisse y avoir une réflexion sur le coût et sur la nécessité de comment faire plus pour produire plus et pour être en réponse avec ce qui nous est demandé. Donc est-ce qu'il est normal que l'objectif d'une structure de santé soit de générer des bénéfices? Et même, est-ce que ça peut être potentiellement dangereux que l'objectif d'une structure soit de générer des bénéfices? Alors quand je dis bénéfices, j'exagère un peu, mais c'est en tout cas de générer suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses, d'avoir un budget équilibré et éventuellement bénéficiaire si on veut réinvestir dans d'autres domaines. Et quels sont les risques potentiels éthiques d'un tel système? Finalement, ça serait... De ne pas prendre en charge des démunis qui ne rapportent pas ou pas suffisamment, de ne pas prendre en charge des pathologies qui ne rapportent pas, parce qu'en fonction du codage ou de ce qu'il a été décidé qu'une pathologie pourrait rapporter, bah, il y a des fois une espèce de désaccord entre la charge en soins et puis ce que ça peut rapporter. De prendre en charge uniquement, pour certains centres, des pathologies qui rapportent, ou éventuellement de prendre en charge des pathologies qui rentrent dans des protocoles de recherche, parce que là aussi, c'est une source de revenus potentiels pour certains hôpitaux. Alors évidemment, c'est assez provoque ce que je dis ici, mais c'est pour mettre le doigt sur les risques d'un tel système. Et quand je dis ça, je ne fais bien sûr pas abstraction de d'autres principes éthiques qui nous habitent quand on travaille dans l'hôpital public et que, bien entendu, la pensée de ne pas soigner les personnes démunies ne nous effleure pas. Alors, il n'y a pas que des inconvénients avec ce système de T2A. Et si je mettais en avant les avantages, ben je disais que la T2A, ça nous a contraints un peu à marche forcée à s'améliorer dans l'organisation de l'hospitalisation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas très bien, sur lesquelles on avait du retard. Et donc, on a été poussé à s'organiser mieux et à faire un certain nombre de choses qui sont clairement un progrès dans le fonctionnement des hôpitaux et dans la rationalisation, au bon sens du terme, des soins. Et puis, bien sûr, tout système a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, j'en ai un petit peu parlé, mais il peut y avoir des dérives de comportement où on va toujours chercher à faire plus et que l'objectif principal, ça soit la rentabilité, que l'objectif principal, ça soit la productivité, qu'on va forcer sur les examens complémentaires parce qu'ils vont rapporter plus, ça va faire tourner le service de radiologie, que ça, on va augmenter les actes chirurgicaux et donc on va peut-être dévier un petit peu sur le niveau des indications qui conduisent à ces actes de chirurgie. Et puis, quand dans son service, il y a des lits vides, eh bien, on va être terrorisé en ayant peur que le directeur de l'hôpital, regardez votre activité, il n'y a plus de malades. Et donc, on va peut-être avoir tendance à prendre des malades, particulièrement vrai pour la réanimation, un peu moins grave, ou éventuellement que l'on n'aurait pas pris si on avait eu moins de places disponibles. Et je vais revenir sur ces exemples un peu plus tard. Une grande phrase dans Économie et Santé, on aurait pu la mettre en titre de ce débat, c'est « La santé n'a pas de prix ». Mais elle a un coût. Donc la phrase, en général, elle n'est pas tronquée au milieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, ou comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Est-ce que ça veut dire que la motivation des médecins est la même pour une structure qui ne génère pas de bénéfices destinés à ses actionnaires ? Est-ce qu'il faut disposer de toutes les avancées technologiques pour un patient ? Et puis aussi, le malade, le consommateur, est aussi impliqué dans cette phrase « la santé n'a pas de prix ». Est-ce que le malade n'est pas prêt à accepter que le coût soit intégré dans la balance bénéfice-risque qui le concerne ? Le Conseil national d'éthique a donné un avis sur la T2A et le Conseil national d'éthique a dit qu'une pratique d'évaluation qui ne retiendrait que des critères paramétrables quantitativement et ne prendrait pas en compte les critères qualitatifs de cette dimension éthique ferait courir à l'hôpital un risque grave de déshumanisation. Le concept de rentabilité ne peut s'appliquer à l'hôpital de la même manière qu'à une activité commerciale ordinaire. Alors, d'accord, c'est bien beau de dire ça, de dire attention, mais OK, comment faire à ce moment-là ? Quels seraient les régulateurs éthiques dans un système de soins basé sur la productivité ? C'est-à-dire, OK, il faut accepter ce système de productivité, il existe, mais il faut qu'on mette des garde-fous pour pas tomber dans la dérive. Alors, comment imaginer que puissent être ces garde-fous ? Alors, il y a des indicateurs de qualité et qui sont développés dans les hôpitaux. Mais quels indicateurs de qualité ? Puis il ne faut pas que ce soit des indicateurs pour décorer la structure, mais il faut que ce soit des indicateurs qui soient pertinents et qui soient réellement des garde-fous efficaces, qui soient une garantie pour le public, qu'il n'y a pas de dérive dans ce système de santé. Et justement, il faudrait qu'il y ait des marqueurs de dérive, du genre la densité de prescription des actes. Mais comment utiliser ces marqueurs de dérive ? On se se souvient qu'il y a quelques années, la Sécurité sociale envoyait aux médecins le nombre d'actes, aux médecins libéraux, le nombre d'actes qui étaient prescrits, actes biologiques, actes de kiné, et puis ils avaient des étoiles, et puis s'ils dépassaient la moyenne, on leur disait « attention, vous avez dépassé la moyenne ». Mais donc ça, on est capable de fabriquer des outils de cette façon, mais manifestement, on n'est pas capable d'aller chercher les 10%, 5% ou je ne sais pas combien de pourcents de médecins qui réellement sont des déviationnistes par rapport à un bon exercice de la médecine. Alors maintenant, je vais finir par quelques exemples qui concernent la réanimation et qui font appel à cette réflexion sur le coût et des décisions éthiques. Donc en deux mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réanimation. Donc la réanimation, bah, j'aime bien dire que c'est le plus intensif des soins intensifs. Je trouve que ça parle. Hein. Et quels sont les malades qui sont hospitalisés dans un service de réanimation? Bah, c'est tous les malades, quand c'est grave, quel que soit l'organe qui est défaillant avec des grands signes de gravité. C'est-à-dire, ça peut être grave parce qu'on a des difficultés à respirer, parce qu'on a une pneumonie et qui est très grave. C'est grave parce qu'on a une chute de tension qui est très importante. Il y a des infections qui sont très graves. Il y a le blocage du fonctionnement rénal dans certaines situations. Ça oblige à venir en réanimation. Le coma, bon, ça c'est une image qu'on a assez facilement. Et puis, assez souvent, en réanimation, on a plusieurs choses à la fois. Et la réanimation, ça permet de mettre en place des suppléances de ces organes défaillants avec de la respiration artificielle, du rein artificiel, des médicaments pour remonter la tension ou pour faire repartir le cœur, en quelque sorte. Et en plus, en réanimation, il y a une surveillance particulièrement rapprochée de tous instants, 24 heures sur 24, par des équipes d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. La réanimation, ça coûte cher, et c'est logique que ça coûte cher, puisque pour faire fonctionner un service de réanimation, il faut beaucoup de personnes, beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes, beaucoup de médecins, et puis il y a des machines, et les machines, ça coûte cher aussi, et puis il y a des traitements, et des fois, les traitements coûtent cher. Ça coûte moins cher que dans certaines spécialités, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Alors voilà deux questions qu'on se pose en réanimation, et qui font éventuellement référence au problème de coût de la santé. C'est est-ce qu'on peut refuser l'admission d'un malade en réanimation? Et puis, à l'autre extrême, est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné la réanimation? Alors, il y a les prérequis. Évidemment, je ne vais pas centrer la discussion ou la réponse à ces deux questions n'est pas centrée sur le coût qui arrive en dernier. Et la réflexion éthique pour ce genre de décision, elle fait appel à beaucoup d'autres choses. Et le coût, finalement, on n'en parle pas. Je vais en parler que ici. Parce que pour dire que malgré tout, ça pose des questions. Mais avant de parler argent, on va d'abord essayer de voir quelle est la volonté du patient, informer les proches, voir quelle est l'évaluation qu'on peut faire de la qualité de vie du patient concerné, quel est son pronostic. Et puis, comme vous avez sans doute entendu parler de la loi Leonetti, il y a cette fameuse collégialité où on ne prend pas la décision tout seul, mais à plusieurs. Et également qu'on prend un avis extérieur pour nous conforter dans cette décision. Mais ici, volontairement, on va se centrer sur la partie qui concerne l'argent. Alors là aussi, pour être encore plus dans le concret, je vous propose un cas clinique potentiellement réel. Il reste un jour une seule place en réanimation. Ça arrive très fréquemment dans les services de réanimation. Assez souvent, on est plutôt à chercher une place libre plutôt que d'être à l'inverse dans une situation où on n'a pas ce genre de soucis. Il y a une place libre et on propose deux patients pour être hospitalisés en réanimation. Alors, c'est un peu difficile, je suis désolé, mais c'est de la réanimation et c'est comme ça notre métier au quotidien. Le premier, il a 74 ans, il a un cancer très évolué, il a peu de chances de survie, il est en détresse respiratoire très grave, donc il lui faudrait de la respiration artificielle, et il n'a pas donné de directive anticipée. Et puis, en même moment, on propose un autre patient qui est, lui, à 42 ans, mais il a un coma profond lié à une hémorragie cérébrale et il est quasiment dans cette situation de mort cérébrale, c'est-à-dire de destruction du cerveau, c'est-à-dire une situation dans laquelle il peut devenir, moyennant la réflexion et puis ce qu'il faut, ce qui va avec, mais on n'en sait encore rien, mais potentiellement il peut être un donneur d'organes. Et s'il donne ses organes, comme il est jeune et qu'avant son problème d'hémorragie cérébrale était en bonne santé, il peut sauver trois personnes, quelqu'un qui est en attente de greffe cardiaque, quelqu'un qui est en attente de greffe pulmonaire, quelqu'un qui est en attente de greffe du foie, et puis il peut donner ses deux reins à deux personnes et il peut améliorer la qualité fonctionnelle de la vie de ces deux personnes. Et donc, voilà, donc, est-ce que je dois mettre en priorité, on va dire, l'éthique de l'individu, où je vais m'occuper de celui qui est vivant, même si sa chance de survie est faible, hein, ou est-ce que je vais plutôt avoir une réflexion qui serait plutôt de l'éthique de société, où je me dis que finalement, pour le bien de la société, le choix le meilleur, si on peut utiliser ce terme le meilleur, serait de prendre le second patient. Deuxième situation clinique ou exemple clinique, parce que c'est bien, ça permet de discuter après et puis de voir concrètement ce que ça peut représenter. On a un patient de 84 ans qui a lui aussi un cancer évolué. Il n'a aucune chance de survie à court terme, autant qu'on puisse le savoir, en ayant interrogé son cancérologue et en ayant examiné tous les traitements successifs qu'il a pu recevoir. Lui aussi fait une détresse respiratoire grave et il a dit dans ses directives anticipées « Tout doit être entrepris pour que je vive le plus longtemps possible ». Donc cette fois-ci, le problème clinique qui est posé, c'est on est face à un malade qui a finalement aucune chance de survie, mais notre principe d'autonomie ou celui qu'on voudrait donner aux patients, c'est le libre choix vis-à-vis de sa prise en charge pour sa santé. Et lui, bien qu'il soit dans une situation entre guillemets désespérée, il dit « j'en veux quand même ». Et donc ça pose des problèmes à l'évidence moraux. Et puis en ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, un petit peu de réflexion sur l'argent dépensé pour soigner ce patient qui n'a pas de chance de survivre. Donc quand on réfléchit sur admission en réanimation, ben nous on considère que l'admission en réanimation c'est inutile quand le malade n'est pas grave, parce que quand il n'est pas grave, c'est pas la peine de mettre en œuvre des moyens de surveillance rapprochés avec beaucoup de personnel, hein, ou bien à l'inverse quand il est trop grave, puisqu'à ce moment-là, le risque de décès est tel qu'il ne faut pas imposer des traitements agressifs de réanimation. Mais malgré ça, de temps en temps, les malades sont quand même admis en réanimation. Ben d'abord parce que ce n'est pas toujours facile d'apprécier la gravité du patient et d'évaluer bien quel est son pronostic immédiat. Parce qu'il peut y avoir une pression des proches. Et puis, on a vu tout à l'heure ou à l'instant des directives anticipées qui peuvent malgré tout influencer notre choix. Et puis, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, quand il y a beaucoup de places disponibles, hein, bah peut-être que notre comportement change un peu, alors que si notre comportement change en fonction des places disponibles, ça veut dire que quelque part, on perd un peu de rationalité par rapport à notre esprit théoriquement un peu cartésien, même si il faut quand même de l'humanité à côté du cartésien, mais ça modifie quand même notre attitude. Et puis de l'autre côté, dans certaines situations de réanimation, à un moment donné, beaucoup de choses ont été tentées, tous les traitements sont des échecs, on a l'impression que la réanimation devient de l'acharnement thérapeutique, hein, et on peut être amené à prendre des décisions d'arrêter la thérapeutique. Alors est-ce qu'il y a une réflexion sur le coût à ce moment-là? Bon, jamais. Le coût n'est un élément déterminant dans la prise de décision. On n'arrête pas la thérapeutique parce que ça coûte de l'argent. Néanmoins, pourtant, si on réfléchit, et on est là pour ça ce soir, le maintien de thérapeutiques jugées inutiles, ben, ça a un certain coût. Et puis, dans d'autres situations, qui doit assumer ce coût? Peut-être vous avez suivi l'affaire de Reims, de chez ce jeune patient, pour lequel les médecins avaient pris la décision d'arrêter son seul traitement, qui était la nutrition artificielle et l'hydratation, et puis une partie de la famille a dit non, 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 le juge a obligé qu'on remette la nutrition artificielle. Et donc, en faisant ça, le juge, il oblige l'équipe médicale ou médico-soignante de reprendre la prise en charge de ce patient. Et donc, peut-être que c'est pas à cette équipe d'assumer ces traitements, alors qu'eux avaient plutôt assumé la fin de vie chez ce patient. Il n'y a pas de conclusion à ce topo, mais il y a beaucoup de discussions. Et quand on réfléchit à ce qui est les problèmes éthiques et ces problèmes de coût de la santé, moi, dans le désordre, ou pas tout à fait dans le désordre, parce que j'ai quand même classé, ou j'ai quand même pas mis complètement au hasard les mots. Donc il y a d'un côté l'éthique de l'individu, et puis de l'autre côté, il y a l'éthique de la société. Et puis un peu tout autour, il y a ce qu'on appelle les piliers de l'éthique, l'autonomie du patient, la bienfaisance et la non-malfaisance, puis il y a la justice distributive, hein, quelqu'un qui est hospitalisé dans un service alors qu'il n'en a pas besoin, éventuellement il prend la place d'un autre. Et puis une autre façon de voir la justice distributive, c'est justement que chacun a les mêmes possibilités ou le même libre accès aux soins, quel que soit son statut social. Il y a le principe de précaution, je n'ai fait que le citer, peut-être ça reviendra dans la discussion. Il y a la qualité de vie et puis il y a le rapport coût-bénéfice. Voilà pour ces quelques idées introductives sur lesquelles je pense on reviendra.
Merci. Monsieur Debetz.
Oui, merci. Moi, je n'ai pas préparé de diaporama puisque je savais que dans les interventions, j'aurais matière à rebondir. Je me présente, je m'appelle Alain Debetz, je suis directeur d'hôpital, il en faut. Je dirige deux hôpitaux en Charente-Maritime, un hôpital de recours, de référence, qui est le centre hospitalier de Saint-Onge, et le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély, mais aussi des établissements médico-sociaux. Donc j'ai la chance d'avoir tout le panel d'activités que peut connaître un directeur d'hôpital, c'est-à-dire, pour reprendre les propos du professeur, des activités qui sont tarifées à l'activité, la fameuse T2A, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, la réanimation, mais aussi des activités qui ne sont pas tarifées à l'activité, mais qui sont financées en dotation globale, l'ex-dotation globale, qui sont la santé mentale, la psychiatrie et les soins de suite et d'adaptation, plus un certain nombre d'activités complémentaires. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par le propos du professeur et qui, j'espère, donneront lieu à un échange entre nous. On est un des pays qui consacre le plus d'argent à sa santé, hein, puisque c'est un peu moins de 10% du produit intérieur brut. C'est des notions qu'on entend beaucoup là, par les temps qui courent, hein, produit national brut, produit intérieur brut. Et le financement public de la santé représente un peu moins de 80%. C'est-à-dire que, on a un engagement de la collectivité nationale dans les dépenses de santé qui est majeur. Et vous savez que chaque année, le Parlement vote la loi de financement de sécurité sociale, ça s'appelle toujours comme ça, je pense que mon voisin en parlera, et il vote dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale, le fameux ONDAM, on aime bien les sigles, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et l'hôpital se situe là-dedans, parmi les autres dépenses de santé, il n'y a pas que l'hôpital. Et c'est justement un des points de mon propos, c'est que à qui appartient l'éthique et la décision qu'a évoquée le professeur, qui est très lourde. Les situations cliniques qu'il a présentées à la fin, je pense que tous les praticiens de France vivent dans leur discipline, de manière ou d'une autre, ces dilemmes et ces cas de conscience. Il y a des choses qui relèvent, et le professeur a très bien fait de parler de l'affaire de Reims, il y a des choses qui relèvent de la responsabilité des acteurs, il y a des choses qui les dépassent. L'affaire de Reims, il y a eu une intervention de la justice. Alors, est-ce que c'est bien que la justice se mêle d'histoires qui relèvent finalement d'une décision entre la famille, les professionnels de santé, qui pourraient être de l'ordre de la sphère privée ? On pourrait en discuter, mais ça montre bien qu'on a dans notre système des questions qui sont aujourd'hui sans vraiment de réponse et des choses qui ne sont pas complètement réglées. Alors effectivement, quand on est professionnel de santé dans un hôpital, quel que soit son niveau, on applique des dispositifs qui s'appliquent à tous les établissements hospitaliers de France. Hein, la tarification à l'activité, elle nous est imposée. Alors c'est un système, pourquoi on l'a mis en place ? Parce que le système antérieur qui était la dotation globale, c'est-à-dire que les hôpitaux avaient une enveloppe pour fonctionner, qui évoluait d'un taux d'augmentation chaque année. C'était un système qui était inflationniste et surtout qui était profondément inégalitaire, puisque que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous avez votre dotation. Et donc, finalement, si vous êtes quelquelqu'un qui travaille beaucoup, finalement, vous êtes pénalisé, parce qu'avec la même dotation, vous êtes obligé de vous contenter de ce que vous avez, de caser des actes supplémentaires par rapport au voisin qui va en faire moins. Donc le système avait quelque chose, d'abord on ne l'a pas inventé, on a appliqué des modèles qui existaient par ailleurs. Le système est extrêmement séduisant, sauf qu'il a une caractéristique, c'est qu'il fonctionne sur la base d'une régulation prix-volume. Mon voisin expliquera ce que c'est plus que moi, mais ça veut dire que comme l'enveloppe est fermée, quand vous augmentez votre activité, ben finalement c'est les tarifs des activités que vous rémunérez qui descendent, qui baissent. Et donc les premières années, les hôpitaux ont travaillé beaucoup. Et puis finalement, chaque année, on s'apercevait que les tarifs des traitements diminuaient. Sans compter des contrôles de l'assurance maladie, puisque on est dans un système quand même très centralisé. Quand on met quelque chose en place, on va contrôler quand même que les acteurs font bien les choses. À trouver des dérives dans le système et à sanctionner les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont dû payer des indemnités. Donc aujourd'hui, ben, vous l'entendez sans doute dans les discussions nationales, ce modèle est quand même en discussion dans la manière dont il s'applique. Je vais prendre un exemple tout simple. L'aménagement du territoire et la distance, l'accès aux soins, la distance d'une population par rapport à un établissement de santé. Je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est l'obstétrique. Une maternité avec la tarification à l'activité pour gagner de l'argent, ou pour tout au moins pour ne pas en perdre, parce que gagner de l'argent, c'est tout relatif. Pour ne pas en perdre, il faut qu'elle fasse grosso modo entre 800 et 900 accouchements. La plupart des petites maternités, elles font 300, 400, 500 accouchements. Ça veut dire que globalement, c'est une activité, quand elle est pratiquée à cette échelle, qui est pourtant utile à la population, est une activité profondément déficitaire. Le gestionnaire que je suis doit équilibrer son budget. C'est normal, je dépense des deniers publics, qui sont les deniers de l'assurance maladie, j'ai des comptes à rendre, et je dois effectivement me débrouiller pour que mes recettes d'activité, T2A ou autre, équilibrent mes dépenses. Mais parallèlement, même si ce n'est pas dit dans la loi pour l'instant, mais ça va sans doute revenir, l'hôpital, notamment l'hôpital public, hein, puisque moi je dirige un hôpital public, a une responsabilité de service public, responsabilité sociétale, d'accès aux soins, d'égalité de traitement des patients. Et donc on se retrouve souvent confronté à des dilemmes ou à des situations un peu paradoxales dans lesquelles il faut à la fois avoir des logiques économiques, la tarification à l'activité, on dit que ça a transformé l'hôpital en établissement industriel et commercial. J'espère que ce n'est pas cela, mais c'est vrai que parfois on se demande si on n'est pas dans ce registre-là. Mais qu'en même temps, effectivement, nous devons accueillir dans un hôpital public et un service d'urgence les personnes qui se présentent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, sans leur demander en premier lieu leur carte vitale et leur carte bleue pour faire l'avance des soins. Bon. Donc on est dans ces difficultés et l'éthique a toute sa place là, parce qu'on se retrouve tout professionnel de santé confondu, parce que l'hôpital a vécu ces dernières années des réformes importantes. La dernière, c'est la fameuse loi hôpital, patient, santé et territoire, loi de juillet 2009, qui a fait du directeur, comme a dit un ancien président de la République, un patron à l'hôpital, notion toute relative, puisque la gouvernance qui a été introduite par les lois précédentes et réaffirmée par cette loi induit à l'hôpital et installe à l'hôpital une collégialité dans les décisions. Elle a installé un organe qui s'appelle le directoire, qui est un organe dans lequel les médecins sont amplement et largement représentés, ce qui permet de donner aux orientations de l'hôpital une coloration extrêmement médicale. Je vous rassure, à l'hôpital, la décision, elle est tout sauf économique. Elle est souvent médicale, elle est médico-économique, mais elle n'est jamais qu'économique. Maintenant, le professeur l'a dit, la santé a un coût, elle a un prix, et on a une responsabilité par rapport à ça. On ne peut pas ne pas s'interroger, quand on est professionnel de santé, sur la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la consommation de ressources qui sont limitées. Je vous ai parlé de la T2A en vous disant que c'était une régulation prix volume, une enveloppe fermée. Les dotations annuelles de financement de la psychiatrie et des soins de suite, c'est aussi des enveloppes fermées. Donc forcément, nous avons une limite d'enveloppe qui nous conduit à faire des choix. Et toute l'importance pour nous, c'est que ces choix, ils ne soient pas la responsabilité portée par une seule personne, mais par une collégialité. Et de plus en plus dans les établissements de santé, fort heureusement, nous avons une dimension collégiale qui s'installe dans les décisions qui ont une portée stratégique et qui impacte fortement notre action et le rôle que nous jouons dans la prise en charge des patients. Deux points complémentaires. L'hôpital n'est pas au centre d'un dispositif, c'est un des maillons de la chaîne. On a beaucoup combattu ces dernières années, on a encore à le faire, ce qu'on appelle l'hospitaliocentrisme. L'hôpital n'est pas le seul lieu de prise en charge. Et de plus en plus, et la loi hôpital, patient, santé et territoire le dit bien, l'hôpital s'inscrit dans un dispositif de prise en charge coordonnée avec d'autres acteurs de santé qui sont eux-mêmes impactés par des logiques qui ont à voir avec l'économie. Vous connaissez bien les problèmes de démographie médicale. Vous connaissez les problèmes de désertification médicale des campagnes. Et tout ça impacte lourdement le système de santé et donc le rôle de l'hôpital. Il est important que les acteurs de terrain, les acteurs hospitaliers, les médecins, les équipes soignantes, les directeurs, n'aient pas à prendre des décisions qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire que eux s'adaptent en permanence aux contraintes qu'ils subissent, qui sont fixées par le système, mais avec une seule préoccupation, et ça, il ne faut pas en douter une seule seconde, c'est l'intérêt des patients et la prise en charge des patients. Parce que même s'il y a des choix à faire lorsqu'il n'y a qu'une place de réanimation, on trouve une solution. On a toujours une solution pour le patient qui ne sera pas pris puisqu'on ne peut pas prendre deux patients sur un même lit. Mais ça ne veut pas dire que le patient ne sera pas pris en charge. Il sera pris en charge. Et l'ingéniosité des équipes médicales et soignantes fait que l'hôpital a une capacité d'adaptation absolument phénoménale. Mais cette capacité d'adaptation, il la doit aussi à sa capacité d'avoir une réflexion sur les modalités de prise en charge et sur son organisation. Et l'éthique, c'est ça aussi. C'est de constamment réinterroger les valeurs, les fondamentaux et le sens du travail qu'on fait et prioriser, faire des choix priorisés. Et si la décision collégiale stratégique a pris de plus en plus d'importance à l'hôpital, c'est à cause de ça, justement. C'est parce qu'on est constamment interpellé par des situations compliquées, complexes, avec des dilemmes, des injonctions qui peuvent paraître parfois paradoxales, qu'il faut approcher et la collégialité le permet. Alors, une chose très importante, un élément très important qui, à mon avis, fait profondément bouger les lignes, c'est le rôle des usagers à l'hôpital, puisque vous savez que depuis quelques années déjà, mais ça a été réaffirmé par les lois récentes, il y a un rapport qui est sorti récemment, qui est le rapport de Madame Compagnon, renforce le rôle des usagers dans la trajectoire de soins à l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital. dans les territoires de santé, puisque vous savez que la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires a instauré des territoires de santé, dans lesquels l'hôpital est un des éléments. Et aujourd'hui, la décision, justement, elle se déplace en dehors de l'hôpital, puisqu'on a de plus en plus une imbrication des acteurs. On parle beaucoup depuis des années des alternatives à l'hospitalisation. Elles se développent encore timidement en France. Il y a un sujet très intéressant en termes d'économie de santé qui est l'hospitalisation à domicile. C'est encore une modalité de prise en charge qui est assez peu développée. La prise en charge au plus près des lieux de vie des patients, c'est une des problématiques des personnes âgées. Ça engage bien au-delà de l'hôpital, mais on sait bien que sur un plan macroéconomique, c'est plus intéressant d'examiner un parcours de soins, une trajectoire de soins dans sa globalité, et de regarder ce que ça coûte, non pas uniquement à l'hôpital, mais ce que coûte une prise en charge à toutes les étapes. On s'aperçoit bien souvent que l'hôpital est intéressant sur une phase aiguë, très aiguë de la maladie, sur une prise en charge, une séquence de prise en charge très courte, mais que ce qui est important, c'est de pouvoir éviter l'hospitalisation et surtout de permettre le plus rapidement possible un retour à domicile. Et c'est tous ces champs-là qui aussi se travaillent sur le plan de l'éthique, puisque quand on organise un retour à domicile, il y a un travail fondamental qui est fait avec la famille, les aidants, les médecins traitants, l'équipe qui va prendre en charge les personnes à domicile. Donc on est, à mon sens, dans une transformation assez forte des modalités de prise en charge et des repères que nous avons dans la manière de travailler. Un point très important qui a fait bouger aussi les questions, les pratiques à l'hôpital, c'est toutes les démarches de certification et d'évaluation, hein, puisque vous savez que les hôpitaux sont régulièrement évalués par la Haute Autorité de Santé, et la Haute Autorité de Santé regarde toutes les questions autour des parcours des patients qui ont de près ou de loin des résonances éthiques, où la question de la qualité est beaucoup plus importante que la question de l'économie ou de la mesure en chiffres de la clinique et des activités de soins. Donc je crois qu'on est vraiment dans notre gestion quotidienne, dans cette démarche éthique ou économie, rationalisation des soins, recherche de l'efficience. Alors ça, c'est un concept sur lequel on pourra revenir parce que c'est assez difficile à définir, mais c'est l'efficience, il y a la question de l'efficacité, mais il y a aussi la question de la qualité. Tout ça doit être conjugué à tous les niveaux d'une structure hospitalière, sachant qu'au bout du bout, l'objectif, c'est que la dépense de santé de la nation soit maîtrisée. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise des dépenses de santé? Quelle est la responsabilité de chacun dans ce dispositif? C'est toute la complexité à laquelle nous sommes confrontés. Tout le monde est responsable, mais comme vous savez, quand tout le monde est responsable, on ne sait pas vraiment qui est responsable. Et donc là, on a souvent un problème de périmètre et on se demande chacun jusqu'où sont ses propres limites par rapport à des décisions à prendre qui souvent vous dépassent. Et je crois que la meilleure réponse à ça, c'est de s'inscrire dans une collégialité et de jamais les décisions qui engage au-delà de vous-même, il ne faut pas les prendre tout seul. Je crois que c'est une des questions les plus difficiles que nous avons à gérer. Nous sommes confrontés toujours à ce principe de ces oppositions de principe. L'autonomie, ça a été évoqué, l'autonomie, mais en face de l'autonomie, il y a la solidarité. Il y a la liberté individuelle, effectivement, le libre choix des patients, la liberté individuelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle le bien public. Donc, est-ce que ces notions sont antagonistes ou est-ce qu'elles peuvent se concilier? C'est toute la question. Voilà, pour ma part, je m'arrêterai là. J'ai abordé beaucoup de choses et peu de choses à la fois, mais je préfère y revenir dans une discussion avec vous. Voilà.
Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis économiste à l'université de Poitiers et je travaille un petit peu, notamment sur le domaine des mutuelles de santé. Hein, c'était l'intervention la dernière fois. Je ne vais pas tellement ici réagir en tant qu'économiste de la santé, je vais plus réagir en tant qu'économiste de l'éthique. Alors je fais un cours d'éthique économique en master professionnel. Dans le cadre d'un master qui est consacré à l'économie sociale et solidaire, puisque souvent l'économie sociale et solidaire met au premier plan les valeurs, les principes, mais derrière ça, il y a une activité économique. Donc comment on met en conformité ces actions économiques avec des valeurs et des principes. Alors je vais beaucoup m'inspirer ici d'un petit repère, peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent parmi vous, hein, qui a été fait par deux philosophes belges, hein, qui s'appellent Éthique économique et sociale. Et c'est une façon de présenter en économie comment les différents courants de la science économique jugent les comportements moraux et l'éthique existant dans différents domaines. Alors, je vais partir de la théorie économique standard. Je vais vous montrer qu'en fait, les économistes, quand ils réfléchissent par rapport à des questions telles qu'on l'a vu, hein, la question, il y a une place de libre et puis il y a trois personnes qui sont dans des situations différentes à laquelle on va accueillir, les économistes vont essayer, dans un premier temps, de se passer de la morale. Ils vont essayer de trouver une méthode de calcul qui va leur permettre de dire « Moi, je m'abstrais de tout jugement moral, de tout jugement éthique. J'ai une rationalité de calcul qui me permet de dire « Je vais accueillir le numéro 1 et c'est en dehors de tout jugement moral. » Alors ça, on va voir comment se déroule cette approche. Et puis ensuite, je vais vous montrer qu'en fait, il y a une morale derrière ça, derrière ce type de choses. Et pour finir, sur l'aspect qu'en fait, il faut vraiment réintroduire la morale dans l'économie, parce que la morale qu'on cache est en fait une morale qui est très particulière. Alors, je commencerai par quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est que la science économique? Donc, il y a une définition qui est restée célèbre des années 60, hein, d'un économiste tout à fait standard, qui dit qu'est-ce que c'est que l'économie? Finalement, c'est la science qui étudie les comportements humains dans des situations où on a des besoins illimités et des moyens rares à usage alternatif. Dit autrement, l'économie, c'est la science des choix. On a des choix à faire parce que d'un côté, il y a des consommateurs qui en souhaitent toujours plus en termes de quantité et de qualité. Il y a des besoins illimités, l'homme est perpétuellement insatisfait, enfin l'homme et la femme sont perpétuellement insatisfaits, mais de l'autre côté, pour satisfaire ces besoins, on a des moyens qui sont limités. Donc première chose, des moyens limités en termes de travail, en termes d'heures de travail, des moyens limités en termes d'équipement. Mais ces moyens limités, on peut les appliquer pour mener des actions différentes. C'est à usage alternatif. Donc sous-entendu, on l'a dit, un budget qui est contraint. Mais ce budget, on peut l'affecter différemment à l'intérieur de la santé. Mais également, on pourrait dire, après tout, on donne trop d'argent à la santé, on va mettre plus d'argent sur l'éducation ou la culture. Donc c'est ça, à usage alternatif, hein. C'est vraiment l'idée que l'économie va étudier ses choix et va porter un jugement sur ses choix en essayant d'avoir une échelle de mesure qui soit utilisable dans toutes les situations, dans toutes les actions possibles, dans tous les secteurs possibles et sur toutes les personnes possibles. Donc voyez l'ambition, on dit souvent la science économique est impérialiste, elle va être capable de traiter tous les problèmes, toutes les situations, dans toutes les périodes, dans toutes les sociétés, avec la même échelle de mesure. C'est une sorte de système métrique. Vous avez un système métrique qui pourrait s'appliquer à toutes les situations. Alors, ça, c'est le point de départ. Donc, c'est l'idée, c'est la science qui étudie les choix. Alors, au niveau individuel, les choix, ils sont relativement simples dans la théorie économique standard. C'est-à-dire qu'on prend un consommateur et on suppose qu'un consommateur, il choisit en fonction de ce qu'on appelle l'utilité pondérée par le prix. L'utilité, c'est la satisfaction qu'il tire du produit. Mais évidemment, il va tirer plus de satisfaction de l'achat, par exemple, d'une automobile que d'une baguette de pain, en moyenne. Donc, il faut ramener ça à une échelle commune. Donc, on divise l'utilité par le prix. Et donc, on a, pour 1 euro de baguette, quelle est ma satisfaction? Pour 1 euro d'automobile, quelle est ma satisfaction? Pour 1 euro d'hôpital, quelle est ma satisfaction, etc. Donc, sur une personne donnée, sur un consommateur donné, on estime que, c'est la fameuse phrase, le client est roi, le consommateur est souverain, c'est le consommateur qui fait ses choix et qui va arrêter ses choix. Qu'est-ce qu'il va consommer ? Ben, en fonction du budget, du revenu qu'il a. À un moment donné, donc si c'est le croissant qui lui apporte le plus de plaisir, il achète d'abord son croissant, etc. Puis à un moment donné, il a épuisé son revenu, hein, c'est le terme économique, et ben, il arrête d'acheter. Donc on est sur dans une analyse simple, on est sur ce qu'on appelle une contrainte de revenu. Et dans le cadre de cette contrainte de revenu, c'est lui qui fait ses choix. Et ce que dit la théorie économique standard par rapport à ça, c'est de dire on ne discute pas des goûts et des couleurs. C'est-à-dire, si le consommateur il a décidé de consommer ceci dans cet ordre-là en fonction de son revenu, on n'a rien à dire par rapport à ça. On ne va pas dire, il a choisi de dépenser dans un paquet de cigarettes, c'est pas rationnel, c'est pas bon pour sa santé. S'il a fait ce choix-là, on suppose qu'il est majeur, qu'il est vacciné, et que c'est qu'il en tire plus de satisfaction que d'acheter autre chose. Ça, c'est au niveau individuel. Alors, au niveau individuel, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur l'influence de la société, sur les besoins qui sont impulsés par la publicité, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser ici, c'est plutôt l'aspect collectif. Le problème majeur qu'ont les néoclassiques, la théorie économique standard, c'est qu'ils disent comment on va comparer les utilités entre différentes personnes. C'est-à-dire qu'un consommateur qui fait son classement, bon, on peut éventuellement l'accepter, mais entre deux consommateurs qui ont des jugements par rapport à des biens qui sont forcément différents, comment on va classer ces choix de consommateurs entre eux ? Alors, par rapport à ça, il y a un philosophe de la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la théorie de l'utilitarisme. Donc l'utilitarisme, l'utilité, on en a parlé au niveau individuel, mais lui, il va appliquer cette théorie de l'utilitarisme au niveau collectif. Alors, je vais vous lire trois phrases qui sont tirées, donc on est en 1798. C'est un philosophe qui s'inscrit dans le courant de la philosophie des Lumières, philosophe libéral, totalement opposé au système de l'Ancien Régime, et vous allez le voir, qui est quelqu'un qui essaye d'avoir un raisonnement supposément neutre, mais surtout un raisonnement qui essaye de s'abstraire de toute morale religieuse, politique, culturelle, etc. Donc, je vous lis les trois phrases et puis on va voir ce que ça donne concrètement après. Première phrase de Bentham, « J'emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, mauvais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines peines et de certains plaisirs, sans leur donner aucun autre sens. » Donc, par rapport à une action, par rapport à une situation, on ne va pas étudier cette situation ou cette action en termes de juste, injuste, moral, immoral. On va simplement voir le plaisir ou la peine que ça apporte aux personnes qui composent la société. C'est-à-dire, est-ce qu'ils en tirent un plaisir ou est-ce qu'au contraire, ils en tirent une insatisfaction ? Et donc, deuxième phrase, ce qui est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'une communauté, c'est ce qui tend à augmenter la somme totale du bien-être des individus qui la composent. Donc si vous comparez deux situations, si la situation A apporte plus de plaisir aux individus qui composent la société que la situation B, eh bien on va choisir la situation A. Mais c'est une somme des plaisirs des différentes personnes qui composent la société. Et donc, qui finit, troisième phrase, un raisonnement en morale ou en législation doit pouvoir entièrement se traduire en ces mots simples, peine et plaisir. Donc, et l'ouvrage s'appelle « Traité de législation ». C'est-à-dire que pour lui, il faut bâtir une société, une législation qui soit fondée sur ce qu'il appelle l'arithmétique morale. C'est-à-dire que toute la morale doit être résumable à des calculs économiques. On va s'abstraire de tout antécédent culturel et on va fonder la nouvelle morale de la société entièrement sur du calcul économique. Alors, comment ça fonctionne ? On va prendre un exemple, c'est là où je retombe sur la santé. Quelque chose qui est énormément discuté maintenant depuis 30 ans en économie de la santé, ce qu'on appelle les QALY. Alors, les QALY, c'est donc un terme anglais, un QALY. Donc, la signification, c'est... Alors, mon anglais est très mauvais. Quality Adjusted Life Year. Dit autrement, année de vie ajustée de la qualité. Alors, de quoi il s'agit ? On va mener un calcul où, par rapport à un traitement médical, par rapport à une hospitalisation, par rapport à un médicament, on va calculer le nombre d'années de vie gagnées. Donc, est-ce que le fait de... sur l'exemple qui a été pris tout à l'heure, le fait de réanimer une personne qui va gagner, mettons, 6 mois ou 1 an de vie, ou quelqu'un qui va donner ses organes à 5 autres personnes qui vont je ne sais pas, alors tout dépend, après, je ne suis pas médecin, mais mettons que ce soit 10 ans de vie pour chacune des personnes, donc vous avez 30 ans de vie gagnée sur un exemple, sur le premier exemple peut-être 1 ou 2 ans, sur le dernier exemple 6 mois, mettons. Donc ça c'est la première base de calcul, on regarde les années gagnées. Mais on ne va pas prendre en compte simplement les années gagnées, on va les ajuster par la qualité de vie de ces années. C'est-à-dire que si la personne est dans un fauteuil roulant ou si elle est complètement autonome, l'année de vie ne vaut pas la même chose. Alors, on va prendre des critères en termes de mobilité, des critères en termes d'autonomie, des critères en termes de souffrance, et on va avoir une échelle de 0 à 1, c'est-à-dire une année permise grâce à tout ce traitement, une année en parfaite santé avec une mobilité parfaite, une autonomie, ça vaut 1. Si on a un traitement médical à suivre, ce sera 0,8 ou 0,9. Si on est en chaise roulante, ce sera 0,5, etc. Alors, sur la pondération, je ne reviens pas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces pondérations-là. C'est fondé sur des questionnaires qui sont très, très discutables. Mais acceptons pour le moment ces histoires de pondération. Et donc, à partir de là, comment on va raisonner sur l'exemple qui a été pris ? Eh bien, on va prendre en compte donc, les années de vie gagnées. On va multiplier par la qualité de chacune des années de vie gagnées. Et dans ce cas-là, à mon avis, il n'y a pas photo. C'est le deuxième cas de figure qui sera choisi, très, très nettement. Si on prend ce raisonnement-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Première chose, on aurait pu choisir un autre calcul. Alors, j'ai oublié de dire, pardon, donc on raisonne sur les années de vie, et ensuite, on divise par le prix. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement la réanimation, c'est de comparer ça à d'autres traitements médicaux, à d'autres soins de santé. Et donc, vous prenez les années de vie gagnées et vous divisez par le nombre d'euros que coûte le traitement, et ensuite vous faites un classement, vous avez un budget donné, on a parlé de l'ONDAM, et vous dites, bon ben voilà, on arrête là, à partir de là on a épuisé le budget, et c'est donc toutes ces années de vie gagnées en termes de qualité, on va faire les choix de cette manière-là. Alors, premier élément, on aurait pu faire un choix un petit peu différent. Le choix un petit peu différent, c'est plutôt que de raisonner sur les années de vie gagnées, c'était de raisonner, et c'était le choix initial de Bentham dans son raisonnement, c'était de raisonner qu'est-ce qu'apporte la personne à la société en termes de richesse économique. C'est-à-dire, chaque année de vie gagnée de cette personne, qu'est-ce qu'elle apporte au PIB ? Alors, vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est-à-dire qu'une année de vie de trader, ça vaut beaucoup plus qu'une année de vie d'infirmière, en termes d'euros du PIB. Donc, ça conduit à quelque chose qui est différent. Donc, ça commence déjà... On commence à se dire, si on introduit le PIB, mais oui, mais qu'est-ce qu'on mesure dans le PIB ? Comment on mesure la richesse économique ? Ou deuxième exemple, vous prenez un actif moyen et vous prenez un retraité qui a des activités bénévoles dans des associations sociales. Ces activités bénévoles ne rentrent pas dans le PIB. Ça vaut zéro. Au contraire, même, il coûte en matière de pension de retraite. Donc, vous dites, je choisis l'actif. Bon. Alors, ce choix-là, ce n'est pas ce choix-là qui a été fait, puisqu'on a dit, on ne va pas prendre comme critère... Le critère de l'argent, le critère de ce que ça rapporte au PIB, on va essayer d'avoir une vision plus égalitaire, puisqu'on va traiter toutes les personnes humaines de la même façon. On va voir que ce n'est pas exactement le cas. On va traiter les personnes humaines de la même façon, quel que soit leur apport au fameux PIB. Voilà. Mais le vrai raisonnement utilitariste aurait été de raisonner sur l'apport au PIB, pas sur cet aspect de gain en espérance de vie. Alors, maintenant, deuxième élément, si vous prenez c'est pas l'exemple qui a été pris, mais vous prenez un traitement qui permet de sauver un jeune de 20 ans, mettons que ça permette de gagner 50 ans d'espérance de vie ensuite, et de l'autre côté, vous prenez donc 49 personnes qui ont 80 ans, dont les traitements permettraient de gagner un an d'espérance de vie. Eh bien, si vous appliquez les quali, alors à qualité de vie égale, si vous appliquez les quali, vous traitez l'unique personne, le jeune, même si de l'autre côté, ça concerne 49 personnes, parce que, en termes de somme des années de vie gagnées, eh bien, c'est inférieur dans le deuxième cas de figure. Et donc, l'une des critiques qu'on fait au Cali, c'est de dire qu'il y a un racisme en termes d'âge, on défavorise les personnes âgées, et ce n'est pas un traitement égalitaire, c'est un traitement, en fait, où on favorise implicitement les jeunes. Autre question. Troisième question derrière ce calcul, c'est qu'on raisonne à budget de la santé donné. C'est-à-dire qu'on raisonne entre traitements médicaux, entre pratiques médicales, à l'intérieur d'un budget de la santé donné, mais on ne s'interroge pas pour savoir si le même euro en matière de culture, en matière de sport, en matière d'éducation, éventuellement, est-ce que ça n'aurait pas un effet soit plus positif, soit plus négatif, mais donc est-ce qu'il ne faudrait pas transférer d'un budget à l'autre? Donc l'idée des QALY, ça nécessiterait d'aller au-delà de simplement les budgets de santé, de voir si par exemple, et on sait que c'est vrai, si financer une association sportive, par exemple, ça n'introduit pas un gain d'espérance de vie qui est peut-être supérieur à certains traitements médicaux. Alors là, ça amène extrêmement loin, ça nécessite des études qui sont extrêmement poussées, et ensuite de dégager quel est l'effet spécifique du sport par rapport à l'effet travail sur l'espérance de vie, par rapport à l'effet logement, etc., ça devient extrêmement complexe. Alors, si on veut sortir de ce raisonnement de calcul économique, on essaye de mettre à plat les choses en disant on essaye d'être le plus neutre possible, mais on voit bien que derrière ça, il y a justement des vrais questionnements éthiques. Il y a deux autres solutions en économie. La première solution, c'est celle des libertariens. Dit autrement, si vous connaissez le Tea Party aux États-Unis, c'est un petit peu ça, hein, c'est l'extrême droite au sens américain du terme. Alors les libertariens disent on ne peut pas choisir pour les individus. Ce qui est fondamental, c'est la propriété de soi, c'est son propre corps, et c'est aux individus de décider par rapport aux traitements médicaux. Donc la société ne peut pas, c'est une impossibilité éthique, la société ne peut pas classer comme ça les traitements médicaux. On ne peut pas favoriser une personne ou une autre en fonction de ce calcul économique. À quoi ça conduit? Alors, ça peut paraître très bien. On peut se dire, là, on respecte vraiment les droits humains absolus, on refuse de comparer les hommes entre eux, et on refuse de sauver une personne sous prétexte que ça rapporterait plus à la société ou ça permettrait de maximiser le nombre d'années de vie. Ce à quoi ça conduit, et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis sur la réforme Obama de la santé, c'est de dire chacun doit se débrouiller par rapport à une assurance santé privée, par rapport à un système hospitalier privé, chacun doit s'en sortir dans son coin, et surtout il ne faut pas que l'État intervienne ni en matière d'assurance, ni en matière de régulation du système de santé. Donc ce principe-là n'est pas meilleur et à mon avis est même pire que le premier. Alors l'autre solution, c'est une théorie qui a été présentée dans les années 70 par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est John Rawls, théorie de la justice. Alors la théorie de John Rawls, là on est chez un philosophe mais qui va avoir beaucoup d'influence en économie, c'est la théorie du voile d'ignorance. La théorie du voile d'ignorance, c'est de dire on va supposer qu'on a des personnes qui sont complètement indifférenciées. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont devant un rideau, ce rideau, il leur cache leur avenir, et ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Mais alors c'est une indifférence totale, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils vont être homme ou femme, s'ils vont être riches ou pauvres, s'ils vont vivre en France ou en Centrafrique, s'ils sont prédisposés à certaines maladies ou pas, s'ils vont avoir des enfants, etc. Donc on suppose qu'on a cette situation complètement fictive, mais qui est voulue volontairement fictive. On place les individus donc devant une ignorance totale de leur avenir, et on leur dit, bon, bah, maintenant construisez votre société. Construisez la société que vous voulez, construisez votre société juste en fonction de cette situation d'indifférence. Et donc ce que dit John Rawls, c'est que vraisemblablement, tout simplement par une forme de prudence, les personnes vont se dire, mais si j'étais la personne la plus défavorisée de la société? Si je me retrouvais femme, noire, en Centrafrique, en ayant un dollar par jour, etc. Donc je vais mettre en place, je vais voter, et toutes les personnes seront d'accord parce qu'elles savent pas ce qu'elles, aucune ne sait ce qu'elles vont devenir. Donc elles vont voter une société qui va essayer de favoriser le plus possible le plus défavorisé. Et donc on va mettre en place un système redistributif, et c'est valable aussi en matière de santé. On va se dire, si jamais je devenais... Alors si je reprends l'exemple, la personne de 84 ans qui a plus que, mettons, 6 mois d'espérance de vie, etc., si je me trouvais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc on va sans doute raisonner très différemment du principe des QALY, parce qu'on va se dire, on peut se retrouver effectivement là-dedans. Alors, c'est quelques exemples, hein, il y en aurait d'autres, si ça vous intéresse, vous pourrez aller consulter l'ouvrage. Hein. Vous verrez comment ces théories économiques de l'éthique peuvent être déclinés sur différents cas. Il y a un chapitre spécifique justement sur l'application à la santé de ces théories éthiques. Donc je vous laisse aller voir les autres théories. Bon, on aurait pu parler de la théorie marxiste aussi de l'éthique, hein, mais ça sort un petit peu du cadre. Et puis également la théorie d'Amartya Sen en termes de capacité. L'idée, la réflexion, c'est aussi de dire, par exemple, en termes de gain d'espérance de vie, mais que va faire la personne de ses années de vie? Si de toute façon c'est une vie qui est Si c'est une vie qui est misérable, même si elle est en bonne santé, si c'est une vie où elle ne prend pas de plaisir, est-ce que forcément c'est le bon choix? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas consacrer l'argent à quelque chose qui améliorerait plutôt sa vie au quotidien, quitte à ce qu'elle vive moins? J'avais vu sur une des critiques des Cali, hein, il y avait je vous la montre comme ça, mais j'aurais dû la prendre. Il y avait la chose suivante: est-ce que griller un steak pendant 20 minutes à 100 degrés, c'est la même chose que griller un steak pendant 10 minutes à 200 degrés? C'est exactement ça, les Cali. Hein. C'est de dire une année de vie avec une qualité moyenne, c'est la même chose que une année de vie en très bonne santé, c'est la même chose que deux années de vie à qualité moyenne. Ça, c'est discutable. C'est tout à fait discutable. Et chaque personne aura sa propre réponse par rapport à ça. Amartya Sen, donc justement, lui, alors, s'intéresse pas spécifiquement à la santé sur l'aspect qu'on vient de le voir, plutôt en termes de capacité, hein, ce que ça permet, ce que l'état de santé permet de faire de sa vie, effectivement, en termes de liberté de choix, en termes de profession, en termes de culture, etc., hein, en termes également de famille. Voilà, c'était tout simplement pour vous montrer, hein, quelques exemples de raisonnement économique par rapport à l'éthique, et que donc vouloir s'abstraire de toute morale au préalable en disant on va essayer de mettre tout ça de côté, d'avoir un raisonnement purement rationnel, à chaque fois on voit se réintroduire certaines hypothèses derrière lesquelles on trouve en fait une certaine morale qui peut être différente, hein, qui peut être une morale axée comme dans l'exemple sur la contribution au PIB, une morale purement sur l'argent. On peut avoir une morale qui se veut juste en termes je dirais plutôt médical, de gain d'années de vie en bonne santé. On peut avoir une optique qui est plutôt justement à la Rawls, en se disant « mais si jamais j'étais le plus défavorisé ». Mais à chaque fois, il y a quand même un point de vue moral. Voilà, je crois que j'ai été suffisamment long. Je vous remercie.
Maintenant, on va faire circuler un micro dans la salle. Je ne sais pas si un de mes collègues d'ASPES veut.
Bonsoir. Quatre choses un peu en vrac. Dans le dernier exemple, et un peu le premier, dernière intervention, et un peu la première, Gilles Kerr, tu n'as pas dit ton nom, tu as dit un peu dans quel domaine tu travaillais, mais je crois que tu ne t'es pas présenté par le nom, Gilles Kerr. Je m'interrogeais sur cette orientation à donner une valeur économique à un individu. Et je trouve qu'on n'est pas très loin de s'interroger sur l'investissement dans une personne comme on s'interrogerait sur l'investissement dans l'isolation de sa maison, dans une chaudière. Est-ce que c'est rentable? Sur combien d'années, etc. Et je crois que si on posait cette question à des villageois au fin fond, en brousse, en Afrique, eh ben, ils donneraient largement autant d'importance à une personne âgée dans le village qui considère être une bibliothèque vivante qu'à un jeune de 20 ans, même s'il a plein d'énergie pour bêcher ou autre. Mais c'est vrai que là, on est quand même à se dire, plus on est vieux, plus ça craint, plus on va être quand même utilisé éventuellement comme roue de secours. Ça, c'était la première petite réflexion. Le mois dernier, j'ai passé une douzaine de jours à l'hôpital. J'étais quand même assez impressionné par la tendance des médecins, techniciens, j'aurais envie de dire, à prescrire des analyses de sang, électrocardiogramme. Et quand je leur dis, mais attendez, regardez dans le dossier, j'en ai eu un il y a 15 jours. Ah, mais non, il n'est pas dans le dossier. Regardez bien. Ah, si, il est dans le dossier. Hop, et il barre sur l'ordonnance, le truc. Par exemple, on m'a dit on va vous faire une radio là, parce qu'on ne sait pas trop, et puis on va vous faire aussi un scanner. J'ai dit, mais attendez, d'abord on va voir si la radio est efficace, parce que j'ai cru comprendre que quand une radio est bien claire, on peut se passer du scanner. Et comme j'en ai quand même collectionné 3 en un an, mais que ça n'a pas l'air de poser de problème aux médecins de savoir combien de scanners on peut prendre par rapport à la dose de rayon. Donc maintenant je sais quels sont les arguments que je peux donner pour éviter le scanner. Et je pourrais vous les donner à part. Mais il y a quand même... Et ils ont perdu l'habitude de palper. J'ai même entendu dire, ça revient à la question, au point précédent, il y aurait des Africains, médecins africains qui seraient embauchés en France, en plus parce qu'ils coûtent moins cher. On est encore sur l'histoire de... On les paye moins cher. Je ne sais pas qu'ils coûtent moins cher, mais on les paye moins. Mais il paraît qu'il y a des hôpitaux ou des lieux en France qui embauchent des Africains médecins parce qu'ils ont beaucoup plus la capacité à faire un diagnostic avec leurs mains et leur cerveau qu'avec le super outillage qu'il y a. Troisième remarque. J'ai un cousin qui a travaillé pendant plusieurs années dans les hôpitaux comme VRP pour vendre du matériel médical. Et ça, vous n'en parlez pas du coût de l'investissement. Il y a 3 scanners, il va y en avoir 4 au CHU de Poitiers. Et la femme avec qui je discutais quand je suis allé au scanner, elle dit « Ah ça, c'est sûr que ils tournent à fond, les scanners. » Et ce cousin qui travaillait pour pousser à l'achat, au remplacement de matériel au bout de 3 ans, a fini par démissionner. Maintenant, il travaille chez Bouygues. Je ne sais pas s'il a meilleure conscience, mais en tout cas, il a démissionné parce qu'éthiquement, il n'était pas du tout satisfait de son boulot à pousser à la consommation. Et là-dessus, les responsables des hôpitaux ont peut-être quelque chose à faire, mais effectivement, on ne peut pas être compétent en tout. Alors, un point positif à Sainte, vous avez travaillé, et Saint-Jean-d'Angély, vous avez travaillé avec une association qui fait la promo de la lecture biologique pour réduire le gaspillage alimentaire. Et l'argent économisé en jetant moins, parce que ça bat un peu les records dans les hôpitaux, et j'y ai contribué aussi pendant 12 jours, a été investi dans des produits de meilleure qualité, ce qui me permet d'aborder le quatrième point sur l'éthique médicale. Presque toutes vos interventions ont porté sur du curatif, entre autres en milieu hospitalier. Mais qu'est-ce qui est éthique ? C'est de choisir le meilleur dispositif, protocole médical par rapport à un patient malade, ou est-ce que ce qui serait éthique, c'est de dire eh ben, mangez plutôt tel ou tel truc, ou buvez ou respirez plutôt tel ou tel air pour éviter d'être malade. Mais ça, c'est sûr que ça ne fait pas trop l'affaire des labos pharmaceutiques, des marchands de médicaments, des marchands de scanners, etc. Mais l'éthique, elle est peut-être là aussi, sur éviter d'être malade plutôt que dire on a du business à faire puisqu'il y a des malades. Et je sais que c'est beaucoup plus rentable pour un labo pharmaceutique d'avoir un malade qui va rester malade, mais qu'on va maintenir avec des médicaments, plutôt qu'un malade qui guérit. Parce que là, au bout de quelques jours, on perd le marché de ce client-là, de ce client, plus de ce patient.
Oui, je me présente d'abord parce que un certain nombre de personnes ici me connaissent, donc, mais d'autres ne me connaissent pas. Je suis médecin, j'étais médecin, je suis maintenant retraité. J'ai été pendant 35 ans chef d'un service de néphrologie, donc traitant en particulier des patients en hémodialyse, donc avec des coûts très élevés, des coûts de traitement très élevés. Actuellement, j'ai pris ma retraite depuis quelques années, mais je reste dans le domaine de la santé puisque je m'occupe d'une association qui gère les centres d'hémodialyse dans la région Poitou-Charentes. Alors, je voulais dire combien il m'a paru complexe d'abord d'aborder ces problèmes d'économie de la santé et... Je dois dire que la dernière intervention là, me posait un problème. Et il y a 30 ans, je me souviens que dans le New England Journal, qui est une des plus célèbres revues médicales, il y avait eu un groupe de cancérologues américains d'une université donc des États-Unis qui avait publié, à une époque où on commençait à parler de dépistage des cancers du sein, un article disant que où ils avaient étudier donc le coût d'un dépistage chez des femmes, je crois, entre 30 et 40 ans. Et ils avaient montré que finalement, on allait, en faisant ce dépistage, on allait dépister des femmes qui auraient des cancers à des stades très limités, donc avec des coûts de traitement qui seraient quand même réduits, puisque une tumorectomie simple allait très souvent suffire. Et ils avaient calculé par ailleurs quel était le coût ensuite. Si on ne faisait pas ce dépistage, on allait trouver évidemment des femmes avec des cancers beaucoup plus évolués, nécessitant des thérapeutiques lourdes, tant chirurgicales que radiothérapiques ou chimiothérapiques. Et le principe du New England est que très souvent, il y a des réponses et les gens peuvent répondre. Il y avait un groupe d'économistes justement de la santé des États-Unis qui avait répondu, ben oui, mais vous avez arrêté votre étude au bout de quelques années. Or, ces femmes qui ont 30 ou 40 ans, effectivement, elles vont guérir de leur cancer du sein si on les dépiste tôt. Mais par contre, elles vont vivre jusqu'à 70, 80 ans. Et elles vont arriver à un stade où elles vont avoir toutes ces maladies dégénératives qui coûtent extrêmement cher. Et au total, eh bien, le coût paraissait... Ils avaient fait une étude sérieuse, je me souviens, et pour montrer qu'au total, le coût était plus élevé, finalement, que ce qu'on pensait au départ. Ceci dit, pour dire quelle est la difficulté, je crois, d'apprécier ces problèmes. La deuxième chose que je voulais également souligner, c'est que il y a quand même, enfin, dans ma carrière, moi, de 35 ans d'hospitalière, où je me suis en plus investi un petit peu comme président de commission médicale pendant plusieurs années, je dois dire que dans ma spécialité, mais je crois aussi dans les autres, on n'a jamais été réellement confronté au problème de coût malgré le prix très élevé de la dialyse. Un patient en dialyse coûte actuellement à peu près 80 000 euros par an, mais il faut voir que c'est des traitements qui se répètent tous les ans, donc multipliez-le par le nombre d'années pendant lesquelles ils vont vivre en dialyse, à moins qu'ils puissent être transplantés. Mais vous voyez, on en a couramment qui vivent 10, 15, voire 20 ans. Donc vous allez voir le coût que ça peut représenter au bout du compte. Malgré tout, jamais on a été confronté à un refus, devoir refuser un patient en raison du problème du coût. Ceci dit, il y a quand même des inquiétudes, en dehors d'ailleurs de la néphrologie, et je voyais récemment que, vous savez que dans l'hépatite C, il y a maintenant de nouveaux traitements qui sont sur le point d'apparaître. L'hépatite C, c'est une hépatite qui est transmise toujours même par voie sanguine, soit par autrefois par transfusion, mais ce n'est plus le cas déjà depuis de nombreuses années. Mais il y a des contaminations qui continuent à se faire, notamment chez des toxicomanes. On a actuellement un traitement qui permettrait l'éradication du virus, mais le coût du traitement tel qu'il vient d'être publié récemment serait de l'ordre de 70 000 euros également par an. On admet qu'il y a en France 300 000 patients porteurs d'une hépatite C. Voyez un petit peu le budget qu'il va falloir consacrer si on veut parvenir à l'éradication de cette maladie, qui effectivement est une maladie grave puisqu'elle conduit fréquemment à la cirrhose et au cancer du foie. Ceci dit, c'est simplement pour donner quelques pistes de réflexion parce que je n'ai pas de solution, mais je suis quand même assez optimiste, avec une petite réserve si quand même. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a jamais été confronté au problème en néphrologie, au problème du coût. Je veux dire quand même que dans les années 85, quand est apparu l'EPO, l'érythropoïétine, vous savez, dont tout le monde a entendu parler pour d'autres raisons, mais qui est un médicament merveilleux pour les insuffisants rénaux, puisque jusque dans l'insuffisance rénale, il y a toujours une anémie et une anémie qui est très souvent qui est sévère, qui handicapait beaucoup les patients. Et le seul traitement en était de les transfuser avec les risques à l'époque de contamination par justement l'hépatite C, à une époque où on ne savait pas encore détecter le virus de l'hépatite C. Eh bien, quand l'EPO est apparu, je me souviens que c'était un traitement qui était très coûteux à ce moment-là, mais dont le prix a diminué à peu près presque par 10 actuellement, on nous avait demandé, l'instruction du ministère était de ne traiter que 5% des patients en dialyse. Et il n'y avait pas d'ARH ni d'ARS à l'époque, mais la DRAS était chargée de cette répartition et tous les néphrologues de la région étaient réunis pendant deux ou trois reprises dans l'année à la DRAS, donc pour discuter du nombre de traitements qu'on allait pouvoir mettre en route. Bon, je crois que les coûts ensuite se sont améliorés finalement. Bon, on a pu traiter tous les patients. Actuellement, je crois que c'est 90% des patients qui sont traités en dialyse, qui sont traités par l'EPO. Voilà quelques idées que je voulais énoncer. Je n'ai pas de solution, mais c'est un petit peu une expérience que j'ai eue au cours de mes années de pratique hospitalière.
Oui, je rebondis sur ce que vous évoquez. Moi, il y avait un article qui m'avait choqué il y a quelques années quand les hôpitaux étaient à la dotation globale. C'était un centre hospitalo-universitaire qui avait fait les honneurs du monde. L'article était intitulé « Un hémophile inadmissible ». C'était simplement un patient fort coûteux qui s'était présenté à l'hôpital en fin d'année, au moment où il n'y a plus d'argent dans les budgets, quand on est en dotation globale et que l'hôpital n'avait pas pu prendre en charge parce que le budget était épuisé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la T2A, on n'est plus dans ce contexte-là, mais ce que vous rappelez, là, les questions de quotas de 5%, etc., c'est ce que j'allais dire. Le coût n'a jamais été une préoccupation. Si, il a été une préoccupation. Simplement, on l'abordait autrement. Mais forcément, à un moment, les médecins étaient confrontés à ces questions au travers de l'exemple que vous citez et que j'ai cité. Alors, vieux, ça craint, vous disiez. Ben, je crois qu'il faut fréquenter nos hôpitaux de campagne. Vous verrez de qui ils sont peuplés. Hein. La moyenne d'âge de nos hôpitaux, des petits hôpitaux, c'est des plus de 75 ans qui remplissent l'essentiel des lits de médecine, de soins de suite et d'adaptation, les services d'urgence. Donc, fort heureusement, nous prenons en charge les personnes âgées dans les hôpitaux, pas toujours dans les conditions les plus idéales. J'en conviens, je suis le premier à en convenir. Vous savez qu'on parle de silver economy, ça c'est un terme qui revient très fréquemment. J'aimerais bien qu'on s'interroge un jour sur ce que ça veut dire, que c'est le concept. Les redondances des actes médicaux, dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé qui sert pour certifier les hôpitaux, il y a tout un pavé qui s'appelle la pertinence des actes et qui traite de la redondance des actes justement et dans nos processus d'amélioration continue de la qualité. On essaye de détecter dans les établissements de santé ce que vous évoquez. Ça arrive, bien évidemment, de refaire des examens par défaut de coordination, mais ça fait partie des indicateurs de contrôle, d'amélioration continue de la qualité que nous mettons en œuvre dans les hôpitaux. L'investissement, on dit que c'est souvent la variable d'ajustement de la tarification à l'activité parce que. Eh bien, quand les tarifs ne rémunèrent pas suffisamment les actes, quand les recettes sont inférieures aux dépenses ou limites, ça veut dire qu'on ne peut pas investir. Un hôpital qui n'investit pas, c'est un hôpital qui s'étiole, parce que les technologies médicales avancent très fortement, notamment dans le domaine de l'imagerie. Vous avez cité l'imagerie. Il y a des équipements, on en parlait tout à l'heure entre nous, dont le prix a été diminué dans des proportions considérables avec l'avancée et la diffusion des technologies. On parlait du scanner et de l'IRM, où les prix se sont quand même largement effondrés en quelques années, fort heureusement, parce que ces techniques se sont banalisées et que l'accès à ce type d'investigation est maintenant assez courant et assez normalisé. Les investissements sont quand même extrêmement contrôlés. Aujourd'hui, vous ne renouvelez pas un scanner ou une IRM comme ça. Bon, d'abord, ça coûte quand même relativement cher. Et puis ensuite, il y a des dossiers qui sont soumis à autorisation, hein, puisqu'on est quand même dans un système où on a une planification. Chaque acteur de santé ne fait pas ce qu'il veut. Il y a quand même un cadre législatif et réglementaire assez contraignant qui fait que on a. Fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on manie des deniers publics, encore une fois, des comptes à rendre. Alors après, la question des laboratoires pharmaceutiques, je ne m'avancerai pas dans ce segment très important. C'est un vaste sujet qui n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive d'ailleurs. Mais je laisse à mes collègues le soin de répondre.
Bon, alors, j'allais dire la même chose. Pour l'industrie pharmaceutique, finalement, c'est une bonne suggestion pour une nouvelle session à part, quoi. Il faut le traiter dans sa globalité. Il y a plein de réponses à faire. C'est un vrai sujet. Je trouve que c'est important. Mais enfin, comme ça, on peut. Enfin, c'est pas de la volonté de ne pas répondre à certains aspects, mais je pense que enfin, c'est une bonne suggestion pour une conférence ultérieure ou un débat ultérieur. Moi, mes quelques réflexions sur vos réflexions, c'est la première, c'est individu, valeur économique. Bon, c'est notre thématique, c'est pour ça qu'on a forcé le trait, mais évidemment, quand on a pris en charge des patients, on n'a pas cette vision. On a une vision qui est, je l'espère, essentiellement humaniste, et puis de la prise en charge et de notre métier. Alors après, la deuxième partie de votre premier point, c'était la projection de ce qui peut se passer dans certains pays d'Afrique ou dans d'autres zones du monde, en Asie. Bon, ok, dès qu'on fait cette allusion-là, tout ce qu'on vient de dire, c'est futile, quoi. Et on change là aussi complètement de dimension. Et dès qu'on fait cette référence, enfin, je veux dire qu'on est complètement hors contexte. Enfin, le contexte mondial, il existe, et bien sûr, mais je veux dire, tout ce qu'on a dit, ça n'a plus de sens à côté de ce qui peut se passer dans certaines régions du monde vis-à-vis de la santé. Et là aussi, il faudra réfléchir et puis il faudra avoir une autre approche sur éthique et politique de soins dans certaines zones du monde défavorisées avec plein de problèmes qui sont associés et dont il faut parler, bien entendu. Après, les examens complémentaires, bon, je suis d'accord avec vous, quoi. C'est un combat permanent, il faut lutter, il faut essayer de... Bon, il y a des processus d'évaluation, il y a un peu d'amélioration sur la possibilité de récupérer plus facilement les documents médicaux grâce à l'informatique et grâce au stockage des données. On espère que ça va limiter un petit peu la redondance. Il y a encore beaucoup de jobs à faire et ça fait partie d'un combat permanent difficile, mais auquel on essaie de s'attacher. Et pareil pour... essayer de maintenir ce qu'on appelait autrefois l'art de la médecine, qui est avant tout une discipline clinique, hein, et où les examens complémentaires ne sont qu'une façon de conforter un certain nombre d'hypothèses, hein, que dans un certain nombre de situations, pour ne pas dire la plupart des situations, on peut avoir appréhendé avec l'interrogatoire et l'examen et la palpation auquel vous avez fait assurance. Mais il y a des situations qui sont difficiles et qui nécessitent malgré tout la répétition des examens, la comparaison par rapport à ce qui a été fait avant. Donc, OK sur le principe général. Et après, il y a tellement de cas particuliers. Donc, voilà. Et puis... Après, vous avez dit également prévention. Bon, là aussi, on ne peut que être d'accord avec vous. Il n'y a pas d'antinomie entre dire il faut être performant dans la médecine curative. Et c'est pas pour ça qu'il faut négliger. Et d'ailleurs, je pense que les tutelles sont très engagées dans ce combat de la prévention. Et donc, là aussi, c'est une préoccupation qu'il faut avoir, et y compris dans les structures hospitalières. Mais il y a des départements de prévention et d'éducation thérapeutique qui se mettent en place et qui témoignent bien de la préoccupation qu'on a également dans ce domaine.
Des réactions un peu en vrac. J'ai oublié de dire que la méthode des Cali n'était pas appliquée en France. Elle n'est pas appliquée non plus en Allemagne, qui l'a refusée. Par contre, elle est appliquée en Angleterre. C'est appliqué sur certaines interventions hospitalières en Angleterre. Qu'il y a un grand débat aux États-Unis là-dessus. Dans le cadre de la réforme Obama, il y a un débat sur la limitation des dépenses de santé et comment justement on choisit entre différents actes. Il faut savoir, et c'est en lien avec l'intervention qui a été faite tout à l'heure, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a actuellement un seuil qui a été déterminé par des économistes, entre guillemets, qui est autour, en valeur actuelle, de 100 000 dollars. C'est-à-dire qu'on estime qu'une année supplémentaire de gagner à plus de 100 000 dollars, ce n'est pas justifié économiquement. C'est-à-dire que si on affectait ces 100 000 dollars à un autre type de dépense, ça apporterait plus de bien-être à la population. Donc, quand vous dites 80 000 euros, conversion en dollars, on doit être à peu près à 100 000 dollars, hein, au cours du dollar actuel. Oui, je suis pas allé voir en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis, on est autour de ce seuil de 100 000 dollars. Donc, on est sur cette année-là. L'année de vie, ça vaut en gros maximum 100 000 dollars. Donc, quand vous parlez de dialyse à 80 000 euros, on est sur ce type de seuil aux États-Unis. Sur l'histoire de l'isolation, là, il y aurait beaucoup à dire, justement. L'isolation des logements a des conséquences sur la santé en termes de température dans le logement, hein, c'est toute la question de la précarité énergétique, mais aussi ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, donc le réchauffement climatique, et les conséquences que ça sur la santé ensuite de manière indirecte. Donc y a c'est pour ça que quand vous parlez de prévention, vous avez raison, c'est assez facile sur les traitements médicaux d'essayer, enfin assez facile. Justement, les laboratoires, les firmes qui ont des instruments, etc., proposent des études et vont dire, voilà, avec cet appareil, avec ce traitement, vous pouvez gagner tant, etc., vous pouvez espérer tant. Après, bon, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas juger si elles enjolivent les choses pour mieux vendre leur appareil. Mais on a des études qui sont très balisées. Si vous prenez l'histoire de l'isolation thermique, qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'espérance de vie? C'est très, très difficile à déterminer. Et on n'a pas mis les mêmes moyens financiers pour étudier ce qu'on peut gagner de ce côté-là, quoi. Donc, même si ça paraît, en effet, complètement contraire à l'éthique de comparer un traitement médical humain et un traitement du logement, d'un bien, on pourrait quand même, je pense que c'était aussi ton interrogation, s'interroger hein, justement sur ça. Juste pour l'histoire là, des analyses des économistes, à un moment donné, il y avait des caisses primaires d'assurance maladie qui ont attaqué les producteurs de tabac pour rembourser les soins concernant tout ce qui est cancer du poumon. Et du coup, les producteurs de tabac au niveau international ont payé des économistes pour qu'ils mènent une étude, c'est notamment en Tchécoslovaquie, où ils ont finalement démontré, entre guillemets, que le tabac était rentable pour la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on gagnait en termes de non-paiement de retraite était supérieur à ce qu'on payait en termes d'analyse médicale. Donc c'est pour vous montrer jusqu'où on peut pousser le refus de la morale jusqu'à ce cynisme absolu qui est de dire, en fait, c'est la sécurité sociale qui devrait payer les producteurs de tabac. Ce n'est pas aux producteurs de tabac de rembourser, c'est au contraire la sécurité sociale qui est gagnante globalement. Donc voilà jusqu'où on peut pousser le type d'analyse économique. Hein. C'est à peu près tout. Sur les besoins, j'ai bien dit, la science économique suppose que les consommateurs ont des besoins illimités. Donc on est dans ce raisonnement où on estime qu'il en faut toujours plus. Alors toujours plus, y compris en matière de santé, d'état de santé, en matière de soins, en matière de désir. Et c'est évidemment la société de consommation qui construit, d'une certaine manière, ses besoins illimités. Donc ce présupposé, c'est aussi un construit social, quoi. C'était aussi pour le souligner. Voilà.
Oui, Jean-Luc Chavagnat. Donc moi, je suis psychiatre et je m'occupe de santé publique donc à l'hôpital psychiatrique, entre autres. Je voulais revenir sur l'importance de l'éthique, puisque c'est quand même, je dirais, l'élément clé de notre soirée. Et je lisais récemment un petit commentaire d'un philosophe. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce sont beaucoup les philosophes qui se sont penchés quand même à la fois sur l'économie, hein, mais aussi sur, la pensée et l'éthique en général. Mais il n'y a pas qu'eux, mais il y a aussi eux. Et Ludovic Wittgenstein a fait une fameuse conférence dans une année non moins fameuse, c'était le 27 novembre 1929, donc quelques temps après le crash, le cas financier. Et c'était une conférence donc sur l'éthique dans une société qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait l'Heretic Society. Dans le cours de cette conférence, il insistait beaucoup sur justement le fait que dans toutes ces dimensions qu'il passait en revue, il était impossible de se passer d'une dimension éthique et qu'elle existait tout le temps. Et que de toute manière, cette éthique, elle pouvait toujours être discutée et qu'on ne pouvait absolument pas aller dans un sens uniquement ou dans un autre sens, puisqu'à ce moment-là, s'il y avait une seule éthique, tout exploserait. Et à ce moment-là, on ne serait plus justement dans la réflexion et on serait dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'absolu. Et la difficulté qu'on peut avoir en lisant certains philosophes qui ne sont plus dans une réflexion mais dans des certitudes, et notamment dans des certitudes qui sont à ce moment-là dans un système que j'appelle clos, je dirais pas fort clos pour certains, mais en tout cas clos, font que nous ne sommes plus à ce moment-là dans cette réflexion. Et que l'intérêt, c'est justement de pouvoir réfléchir sur ces différents points. Et grâce à l'éthique, on peut y réfléchir. Le fait d'avoir cette approche éthique, justement, et de balancer, comme a pu, par exemple, le mettre en évidence René Robert tout à l'heure. Hein, je veux dire. C'est-à-dire que, de toute manière, on doit se poser des questions et faire des choix. Alors après, à nous de définir ce qu'on va mettre et ce que la société va accepter à un moment donné comme choix. Et on voit bien qu'on n'est pas simplement au niveau de l'individu, mais que ça ne peut pas être uniquement une réflexion politicienne, je veux dire comme ça, et simplement de coup, mais que ça doit être quelque chose de beaucoup plus large, et une véritable réflexion sociétale et philosophique qui doit pouvoir se mettre en œuvre.
Simplement, ce que vous évoquez me renvoie à ce que mon interrogation de tout à l'heure, c'est l'éthique, elle est omniprésente, surtout dans un environnement où beaucoup de choses se télescopent, et donc forcément, on est constamment interrogé. La question, pour moi, pour nous, c'est de trouver les bonnes sphères de réflexion, c'est-à-dire toujours essayer de rester dans son périmètre et de ne pas entrer dans des champs qui ne relèvent pas de notre responsabilité. C'est pas pour se défausser, mais c'est pour rétablir des équilibres. Il y a des choses qu'on peut décider, des choses sur lesquelles on a prise et des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et je crois que la plus grande des difficultés qu'on a, c'est justement d'apprécier ses limites là où il faut intervenir parce qu'on a des décisions à prendre et là où il faut effectivement déplacer la réflexion, la décision. Et donc la question des territoires, par exemple, qui est une question que nous évoque la dernière loi importante de santé publique qui impacte l'hôpital, mais pas que. Si elle parle de territoire, c'est aussi qu'est-ce que c'est que ces territoires ? Est-ce que c'est qu'on parle de démocratie sanitaire ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire ? Où est-ce que ça s'exerce ? Qui l'exerce ? Comment on l'exerce ? Est-ce qu'il y a une place pour l'éthique dans la démocratie sanitaire ? Oui. Les conférences de territoire qui ont été mises en place par la loi réfléchissent sur des orientations et font des propositions à l'Agence régionale de santé, font des propositions aux collectivités publiques. Jusqu'où va-t-on et qui assume quoi dans ces cercles? Je crois que ce sont des réflexions qui s'imposent à nous aujourd'hui. En tout cas, moi, je crois que c'est important de réintroduire l'éthique à tous les niveaux, je dirais, des décisions sociétales. Alors, l'hôpital, on l'a dit, on a parlé du curatif, on a reparlé de la prévention, de l'éducation sanitaire. Et c'est vrai que ces missions, il faut les rappeler, il y a l'enseignement, il y a la recherche. Ce sont des missions nobles, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément rémunérées à la hauteur des enjeux. Je parle notamment de l'éducation thérapeutique qui est quand même pas très bien traitée dans les financements, les modalités de financement et d'allocation de ressources aujourd'hui. Et là aussi, ça correspond à un choix de société. Jusqu'où doit-on aller dans un hôpital? Parce qu'on nous dit souvent du côté des agences régionales de santé, l'éducation thérapeutique, vous allez la financer sur les gains que vous allez faire à la tarification et l'activité. Sauf que quand on ne fait pas de gains à la tarification et l'activité, ça veut dire qu'on ne fait pas d'éducation thérapeutique. Ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper des diabétiques, des cardiaques, etc., etc. Où l'éducation est un facteur majeur d'amélioration des conditions de vie et du pronostic de santé. Donc là aussi, on est dans des dimensions éthiques où l'hôpital a une responsabilité, mais cette responsabilité, elle doit être partagée. Et forcément, à un moment, il y a des arbitrages à donner et à rendre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on sache très bien qui doit arbitrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire en vous ayant écouté.
Oui, je voudrais aborder une autre dimension de la relation entre santé, éthique et économie, parce qu'on a beaucoup parlé de la santé comme coût. Il ne faut pas oublier que la santé, c'est aussi un secteur économique florissant. Et en pensant à cette soirée, je lisais un article du Monde qui était titré en première page du supplément Éco et Entreprises « Les biotech françaises flambent en bourse ». Je me dis, tiens, pour une fois, on ne parle pas de la santé comme simplement un coût. Et puis, j'ai noté quelques phrases de cet article qui m'ont quand même beaucoup surprise. À propos de la mise en scène d'une start-up spécialisée dans les tests génétiques venue chercher des capitaux à Paris, un communicant spécialisé a pu dire « Fini l'époque du petit savant fou français, on a affaire à des scientifiques qui sont aussi des managers aguerris, capables de convaincre avec un business plan solide. » Dans le même article, on peut lire que la biotech est le nouvel Eldorado des investisseurs. J'ai du mal à associer Eldorado et éthique. On parle aussi de créneaux très à la mode de l'immunothérapie ou encore de jackpot potentiel de plusieurs centaines de millions d'euros de telle ou telle opération financière autour du marché des biotechnologies. Alors, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre réflexion d'espèces. Mais c'est vrai que je crois que c'est jamais innocent le choix des mots, même si c'est des communicants qui les utilisent, c'est jamais innocent. Et on a connu dans d'autres domaines de l'économie médicale des errances graves en termes d'éthique et d'économie. Je citerai pour mémoire l'affaire du Mediator, hein, où on a vu que pour assurer le profit d'un laboratoire, on avait sciemment court-circuiter les aspects négatifs du dit produit et les usages tout à fait inadéquats qui pouvaient en être entraînés. Et je crois qu'on peut craindre aussi qu'une absence de réflexion éthique dans certains domaines, peut-être de la recherche ou de la promotion industrielle, ne nous amène à envisager des solutions thérapeutiques, préventives ou autres, parce que ces entreprises investissent aussi le champ de la prévention. Qui s'éloignerait peut-être des valeurs éthiques dont on vient de parler.
En attendant, juste un petit commentaire là-dessus. Là-dedans, dans biotechnologie, l'éventail il est très large, quoi. Ça va des premières étapes de la découverte des propriétés éventuelles de ce que peut représenter un médicament. Et donc là, il est sûr que c'est une étape indispensable. Et puis s'il y a des biotechnologies qui permettent de faire ces phases précoces d'innovation thérapeutique, là, on n'a pas d'état d'âme parce que le malade, il est encore loin. Et puis, alors après, où on se rapproche du malade, c'est quand on arrive à... aux phases commerciales ou pré-commerciales de produits issus des biotechnologies et auxquelles tu as fait référence pour certains. Et alors après, on revient finalement à la réflexion sur la balance coût-bénéfice et puis avec un certain nombre d'autres façons de mesurer l'efficacité. Vous en avez utilisé certains, on peut en imaginer d'autres. Quoi, le nombre de traitements qu'il faut donner pour sauver une vie, si c'est un médicament qui a un impact sur le pronostic vital, qui permet de réfléchir un peu justement à cet écart qu'il peut y avoir entre l'utilisation d'un produit coûteux et son intérêt. Il y a l'intérêt réel démontré par les études cliniques scientifiques. Et puis après, il y a la pondération de cet intérêt en fonction du nombre de personnes qui en profitent réellement ou qui peuvent en profiter réellement au quotidien, qui est aussi une autre dimension d'appréhender éthique et puis utilisation des thérapeutiques. Puis après, bon, si on reparle du médiateur, on revient sur la prochaine session à laquelle on faisait allusion tout à l'heure.
Oui. Par rapport à la question de ce que coûte une année de vie, est-ce qu'on pourrait pas dire, enfin, à vous entendre, est-ce qu'on peut pas dire que c'est quand même l'exploration de quelque chose qui est en soi, à l'horizon, quelque chose de monstrueux. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à le concept de ces vies qui ne valaient pas la peine d'être vécues, qui est un concept qui était très répandu avant la Seconde Guerre mondiale et qui était appliqué de manière massive par les médecins nazis pour tuer les handicapés mentaux et puis au-delà. Mais c'était quand même la médecine en général qui, à cette époque-là, se posait la question des vies qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Donc le concept, quand c'est quelqu'un qui dit que sa vie vaut plus la peine, c'est une chose. Quand c'est un état qui se met à juger, c'est toujours inquiétant, un état ou une quelconque bureaucratie. Sur la question de l'éthique, moi, depuis que je suis étudiant, il y a quand même longtemps, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler et j'ai un vague sentiment que c'est parce que on ne sait pas trop où. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème de déshumanisation dans les hôpitaux, il y a un problème de maltraitance des gens en général, il y a un problème de marchandisation des êtres humains et de tout. Et alors, on fait un domaine particulier qu'on appellera l'éthique. Parce qu'en philosophie, la question de l'éthique, c'est quand même. C'est pas un truc où on fait trois cours dessus. C'est comment mener sa vie en fonction du bien et du bien public. Il ne me semble pas qu'en médecine, on parle comme ça. Alors, c'est toujours important de savoir que le Comité national d'éthique dit que tout n'est pas qualitatif. Mais il était une époque où il n'aurait même pas été la peine de le rappeler, puisque ça, on aurait considéré que ça allait de soi.
Juste sur la comparaison avant la Seconde Guerre mondiale, tout à fait. Hein. Je crois que ça a été dit aussi à travers ton intervention. C'est le fantasme d'avoir une échelle unique de jugement par rapport à toutes les situations. Alors que cette échelle unique de jugement soit religieuse, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit raciale, etc. Mais il y a ce fantasme, on a une échelle unique et on va juger toutes les situations, on va classer toutes les situations et on va dire là, il y a une barrière qui est infranchissable, ça c'est bien, ça c'est mal. En termes économiques, on va dire, ben voilà, on s'est attribué ce budget-là, donc tout ce qui est en dessous, c'est pas possible, quoi. Donc je crois qu'il y a ce fantasme-là. Et puis la deuxième chose qui est très difficile en économie de la santé, c'est que la base d'un économiste, c'est justement le monétaire. C'est de monétariser quelque chose, c'est donner une valeur monétaire à quelque chose. Or, donner une valeur monétaire à une vie, c'est ce qu'il y a de plus choquant. Et en même temps, c'est extrêmement difficile parce que potentiellement, c'est une valeur infinie. Qu'est-ce qui vaut plus que la vie ? Rien. Une année de vie pour quelqu'un, une fois qu'il est mort, alors à moins qu'on croit au paradis, etc. Mais à ce moment-là, vous attribuez une valeur monétaire au fait d'être au paradis. Mais la vie, c'est potentiellement une valeur économique infinie. Mais si vous voulez faire du calcul économique, ça n'existe pas une valeur économique infinie. Il faut une valeur économique donnée, même si elle est très, très élevée. Hein. C'est pour ça que je disais 100 000 dollars, etc. Voilà. Donc, c'est la difficulté en économie. On est en économie de la santé. Comme ça a été dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, en effet, si elle n'a pas de prix, c'est une valeur infinie. Mais il y a des raisonnements en coût derrière. Donc, on est obligé à un moment donné, malheureusement, de ramener ça à des valeurs monétaires. Et c'est extrêmement choquant. De là à dire que c'est non éthique, j'ai des doutes, parce que dire on va vraiment tout ce qui est économique le mettre en dehors de l'éthique, la morale, ça n'a rien à voir avec l'économique, ça conduit aussi à certaines absurdités. Donc c'est les interactions. Et je crois que il n'y a pas de solution, mais le fait d'avoir une échelle qui croise différentes, justement le croisement de différentes échelles, de dire soit il y a plusieurs personnes qui sont justement ce qui a été dit, le jugement collectif, soit on croise différentes valeurs, c'est peut-être là où il faut raisonner, quoi. Voilà.
Oui, moi, je voudrais faire deux commentaires sur ce que vous avez dit. D'abord sur la qualification du coût de la vie en fonction de la présence ou de l'absence d'un handicap. Bon, évidemment, on peut trouver ça complètement choquant, mais c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire c'est une mesure qui ne met pas en cause les valeurs morales, mais il faut bien, si on a une réflexion sur la société et sa réflexion économique, hein, différencier la survie sans séquelles, la survie avec un handicap, la survie avec un état de dépendance totale. Et puis après, ça ne veut pas dire que notre société va faire des choix en disant bon ben voilà, dépendance totale, c'est inadmissible au point de vue économique et donc il faut se débarrasser de ceux qui sont en état de dépendance totale. Bien sûr, ça ne veut pas dire ça, mais c'est une façon de serrer un peu la réflexion sur, sur le handicap, sur ce qu'on veut soi-même devenir quand on sera dépendant. Est-ce qu'on veut tous aller s'entasser dans des maisons spécialisées, dépendant des autres, en attendant que la mort vienne enfin nous prendre? On n'a pas forcément tous cette même réflexion vis-à-vis de ce que sera notre devenir quand on sera proche de la mort et de la façon dont on va l'appréhender. Donc c'est pas choquant d'avoir cette réflexion et ça remet pas en question notre sensibilité morale, je dirais. La deuxième partie, c'est sur la réflexion sur la déshumanisation des hôpitaux. Peut-être je suis un éternel optimiste naïf, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un domaine de réhumanisation des hôpitaux. Si on compare la conduite des personnels d'il y a 20 ans, quand on allait dans les services qui étaient fermés, les visites étaient interdites, sauf dans un créneau très, très particulier, l'infirmière ne disait pas bonjour, les malades étaient... ça a complètement changé. Et c'est pas parfait, il y a sûrement des situations où c'est pas bien encore. On a beaucoup de progrès à faire, mais je trouve que c'est spectaculaire quoi, par rapport à... On est suffisamment ancien pour avoir connu une période de creux, et puis dans certaines grandes villes, c'était pire que dans d'autres. Mais vous avez maintenant, les infirmières elles disent bonjour, on est bien accueillis, il y a une sensibilité à l'accueil des patients, c'est pas un vain mot. Et puis l'enseignement de l'éthique. Alors on dit toujours, il n'y a pas d'enseignement. Non, je ne suis pas d'accord maintenant. C'est fini la période où on disait, il n'y a pas d'enseignement de l'éthique. Ça vient et ça ne fait que de s'accroître. Là, juste avant de venir, j'étais à une réunion, c'était la thématique, c'était comment enseigner l'éthique aux étudiants et à quel moment dans leur cursus. Alors c'est sûr qu'ils ont un enseignement obligatoire en première année, mais qui ne leur sert pas grand-chose, sinon de faire partie de leur sélection du concours. Puis après, ils vont tout à fait oublier ça parce que leur préoccupation, ce n'est pas l'éthique, c'est d'être reçu à leur concours de première année. Donc, à quel moment il faut réinjecter de l'éthique pour la plus grande majorité? Donc, moi, je trouve qu'au contraire, on était dans le creux et puis on essaye de travailler dans plein de domaines. Le service de réanimation, maintenant, il y a plein de services où les visites, c'est 24 heures sur 24. Donc, ça montre bien les changements spectaculaires qui ont été faits dans l'accueil des patients. Sur la fin de vie, il y a quand même énormément de progrès qui ont été faits, pas seulement en réanimation. Les unités, des exemples sont multiples. Alors, encore une fois, il y a sûrement encore des situations où c'est épouvantable et puis où il y a des ratés partout, sans doute y compris dans mon service, malheureusement. Mais donc voilà, quoi.
Oui, c'était juste pour revenir un petit peu sur les pays qui sont en voie de développement. Il y a, dans les années 90, j'ai fait une mission humanitaire en tant que kiné en Roumanie. Et on m'a demandé d'intervenir dans une fac de médecine. C'était des élèves de sixième année qui étaient en fin de cursus. Et je devais leur expliquer ce que c'était que la kiné en France et ce qu'on faisait. Et j'avais bien insisté sur la prise en charge des malades en neurologie, que ce soit avec des atteintes cérébrales de naissance ou acquises, ou des accidents vasculaires. Et à la fin de l'intervention, il y avait un temps de débat, et il y a des étudiants qui discutaient fort, et il y en a un quand même qui prend le micro, et il me dit « Écoutez, madame, vous êtes gentille, mais quand même, passez beaucoup de temps... avec ces gens qu'on sait que de toute façon, ils ont le cerveau abîmé et qu'ils ne vont pas le récupérer, est-ce qu'on ne va pas perdre notre temps alors qu'on a beaucoup d'autres choses à faire ? Et quand ils m'ont dit ça, j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. Et je me suis dit, mais tu te prends pour qui, toi, là, t'arrives, tu donnes ton image de pays nanti, où effectivement on a le loisir aussi et l'argent pour faire ce genre de traitement. Et eux, ils sont en face devant une réalité qui était juste l'après Ceausescu, où ils essayaient de reconstruire un pays où ils n'avaient vraiment plus rien. Et je me suis dit surtout ne les juge pas, quoi, réponds, j'aurais pu répondre le mieux. Alors j'ai dit, bah, écoutez, quand on n'a plus rien à faire ou qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire, on peut prendre soin d'eux en veillant à ce qu'ils soient propres, à ce qu'ils soient... Et j'ai eu que cette réponse-là et je me suis sentie minable, quoi, ce jour-là. Voilà, c'était pour un peu illustrer aussi que l'éthique, selon le contexte dans lequel on est, elle n'est pas la même pour tout le monde et qu'il y a des réalités qui sont effectivement vues de loin insupportables. Mais quand on est dans le pays, qu'on est en mission humanitaire, qu'on les voit se battre, ben d'un seul coup, on réalise qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi. Hein. Et nous, je pense qu'on fait aussi ce qu'on peut, quelquefois.
Bonsoir. Il me semble qu'on a beaucoup parlé de l'éthique, de l'économie, plutôt en milieu hospitalier, qui, à mon sens, est un secteur qui est plutôt bien administré, bien cadré. Et je n'ai pas vraiment entendu parler, je dirais, de la médecine ambulatoire, où justement, peut-être, des questions éthiques, des questions d'économie pourraient le plus s'opposer, parce que, bon, voilà, c'est un secteur où... pour pas dire chacun fait ce qu'il veut. Il y a une certaine réglementation, mais on sait bien que c'est pas aussi régulé qu'en milieu hospitalier.
Oui, c'est juste une remarque sur la responsabilisation des patients. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe dans les urgences, je pense qu'il y aurait quelque chose à expliquer aux gens qu'on va pas aux urgences pour un petit bobo. Et parce que ça... Voilà, ça engendre des dépenses, des attentes, des souffrances pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, responsabiliser les patients.
Très vite, on peut toujours expliquer, mais ça ne suffira pas parce que avec la désertification médicale, je répondrai aussi à la question de madame un peu, les patients ne viennent pas aux urgences par hasard aussi. Ils viennent aux urgences parce que souvent, il n'y a que les urgences. Je suis d'accord avec vous, mais on peut expliquer tout ce qu'on veut. On a des comportements aussi consuméristes. Vous avez raison sur la... On a une véritable difficulté avec les systèmes de santé qui coexistent et la coexistence d'une médecine libérale et d'une médecine publique. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il n'y a pas trop de règles posées et que c'est souvent... c'est extrêmement difficile à réguler. Je prends qu'un seul exemple, c'est les réseaux de soins, la coordination. Quand on met en place, je parlais tout à l'heure de l'hospitalisation à domicile, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des acteurs hospitaliers ou en secteur parapublic qui ont des obligations, des missions. Et puis de l'autre côté, effectivement, des professionnels qui sont aussi isolés, qui ont leurs contraintes et qui ont des raisonnements qui sont totalement... autonome, et que là, il y a quelque chose, à mon avis, qui ne fonctionne pas. Et c'est un des problèmes qu'on a à gérer au niveau des territoires, parce que vous avez vraiment tous les cas de figure, mais que souvent, pour qu'un système fonctionne, on s'en remet exclusivement à l'engagement individuel et à l'éthique individuelle. Bon, il n'y a pas que ça. On ne peut pas demander à un praticien généraliste qui est en pleine campagne, qui est en fin de carrière, qui est épuisé, d'apporter le même service qu'un jeune médecin qui démarre dans un cabinet où ils sont plusieurs. Enfin, là, c'est vrai que c'est un secteur sur lequel on n'est pas très bon. Il n'y a pas véritablement de règles et les pouvoirs publics sont excessivement démunis par rapport à ça. Organiser une permanence libérale de ville dans ce pays, sur tous les points du territoire, c'est souvent très compliqué, voire impossible. Hein, les tutelles s'y cassent les dents hein, très très souvent hein, et là effectivement il y a une difficulté.
Bien, on est obligé d'arrêter. En tout cas, merci aux intervenants et merci aux participants pour ces échanges très riches. Alors, le programme du deuxième semestre d'ASPES n'est pas encore établi. Je peux simplement dire que j'ai oublié la date. Alors, je regarde mon collègue là-bas au fond de la salle. Nemat, je ne sais plus à quelle date on a prévu une soirée en octobre sur le thème recherche, justement, recherche éthique et addiction. je ne sais plus exactement l'ordre des termes. Donc, je sais qu'il y a une date, en tout cas, qui est déjà calée. Et puis, on aura une deuxième thématique, mais bon, on fera passer par voie de presse, bien sûr, la suite de notre programme. Merci en tout cas encore aux intervenants et bonne soirée.